السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم en cette soirée du 29 Shawwal 1428, c'est-à-dire le 10 novembre 2007, inshallah ta'ala, le sixième cours sur le mariage, inshallah ta'ala. On avait parlé la fois passée on est arrivé à quoi, au résultat, ou la, disons à la conclusion, que en islam il était interdit de forcer la femme à se marier. Maintenant, je me rappelle que j'avais cité un hadith, si vous vous souvenez, d'où il parlait d'une femme qui a été forcée par son père à être mariée. Ensuite, elle est allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que yani, il a annulé ce mariage. Mais qu'elle avait dit, c'était juste pour que les femmes sachent que les pères, ou bien que leurs pères, n'ont pas de droit sur eux dans cette chose. Naam. Ce hadith, je l'avais trouvé sahih chez Wesmo. Arnaout, Cheikh Arnaout l'avait authentifié dans son livre Mousnad Ahmed, quand il a fait le tahqiq de Mousnad Ahmed. Et je l'ai trouvé chez Cheikh Al-Albani en disant qu'il était faible. Cheikh Al-Albani, il a dit qu'il est faible. Et comme j'ai dit, il a dit qu'il était sahih. Mais ce qui est plus sahih, c'est son sens qui est dans le Bukhari. Un hadith dans le Bukhari qui est, yani, qui n'a pas de doute, c'est celui où il est dit qu'une femme, yani, son père l'a forcée pour le mariage et le prophète alayhi sallam a annulé son mariage. On va le voir, inshallah ta'ala, dans quelques instants, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On va commencer, inshallah ta'ala, le nouveau. Tayyib. Le Cheikh rahimahullah a dit, lakin hahuna mas'ala. Il dit, voici maintenant une mas'ala. Voici, yani, on va parler sur quelque chose. C'est une question avec une réponse. Il a dit, si une femme a choisi pour son mariage quelqu'un qui ne remplit pas les conditions. Si une femme a choisi pour le mariage, quelqu'un qui ne remplit pas les conditions. Il a dit son père ne lui obéit pas. Il n'a pas de péché. Et il n'a pas de péché en ne pas lui obéissant. S'il ne lui obéit pas, il n'a pas de péché. Et il lui dit, jamais je ne te marierai avec cette personne de ma vie. Donc, ça c'est clair, c'est petit a. Petit a, c'est elle qui choisit quelqu'un qui n'a pas de dîme, par exemple. Elle va choisir quelqu'un qui boit de l'alcool, quelqu'un qui ne fait pas la prière, quelqu'un qui est connu que c'est quelqu'un qui yani, suit beaucoup les femmes. Naam. Il veut faire le haram avec les femmes. Il est très connu dans le quartier. Naam. Un voleur. Il lui dit, jamais je te marierai avec celui-là, il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché à dire cela à sa fille et à l'empêcher de se marier avec une personne pareille. Petit b.
ولكن إذا عينت كفءا فعلي نعم pardon on n'est pas encore tibé ici le père lui dit il a dit si elle choisit quelqu'un qui ne remplit pas les conditions il dit je te marierai jamais avec celui-là mais si tu choisis quelqu'un qui remplit les conditions فعلى العين والرأس ça sera sur les yeux sur la tête expression en arabe on dit على العين والرأس sur mes yeux sur mes têtes ça veut dire j'accepte طيب. Maintenant, plutôt, in ayana kufan wa abat. Maintenant, c'est le contraire. Lui, bi'idlillahi azza wa jal, lui a choisi quelqu'un qui remplit les conditions. Et elle a refusé. Non, il lui a choisi quelqu'un qui remplit les conditions et elle a refusé.
Non. Thumma ja'a kufun akhar wa abat. Ensuite, il y a une deuxième personne qui s'est présentée, qui remplit les conditions. Masha'Allah, le din et le bon comportement. Naam, elle a refusé. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui se présente, qui remplit les conditions, elle n'accepte pas, elle refuse. Donc maintenant, si son père ne va pas la marier, naam, ne va pas la marier, est-ce qu'il va avoir des séyyi'at, va avoir des péchés? Réponse, là, لأنها هي التي أبت. Il n'aura pas de péché. Parce que c'est elle qui n'a pas accepté. C'est elle qui n'a pas accepté le mariage. Naam. Elle veut se marier avec quelqu'un qui ne remplit pas les conditions. Et lui, il veut la marier avec quelqu'un qui remplit les conditions. Lui, il n'accepte pas celui qu'elle propose. Et elle n'accepte pas celui qu'il propose. Donc il a dit, il ne la marie pas. فيقال لها on lui dira on va lui dire انت ان رضيت الكفء الذي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزويجه وهو من نرضى دينه وخلقه فعلى العين والراس on lui dit écoute si toi tu acceptes نعم celui qui remplit les conditions dont le prophète صلى الله عليه وسلم nous a exhorté à ce qu'on marie la fille avec نعم si tu acceptes celui-là sur les yeux, sur la tête. Et sur la tête. Ça veut dire, on accepte. وَأَمَّا إِذَا عَيِّنْتِ مَنْ لِيسَ بِكُفْءٍ فِي دِينِ وَخُلُقِهِ وَهَمُّ شَيْءِ الدِّينِ فَإِنَّنَا لَا نَقْبَلُ مِنْكِ وَلَا نُزَوِّجُكَ. Mais si par contre, tu choisis celui qui ne remplit pas les conditions dans le din et dans le comportement, ensuite il a dit entre parenthèses, et le din est plus important que le comportement, فَإِنَّنَا dans ce cas, on refuse de te marier. On refuse de te marier. Naam. Ensuite, Cheikh Rahimahullah va passer à autre chose. Car on est en train de parler, on est en train de parler de quoi? Des gens qui, il était possible de les marier sans leurs avis. Mais maintenant, je vais ajouter un petit C que Cheikh Lahmo peut-être a dû l'oublier, je ne sais pas. Je vais dire quoi? وَإِذَا عَيَّنَتِ الْكُفْءَ وَأَبَى نعم ici lui, pardon, ici elle choisit celui qui remplit les conditions et lui refuse. Hadith, ça n'a pas été cité. Maintenant, c'est elle qui a proposé quelqu'un qui remplit les conditions et il n'a pas accepté. Le père n'a pas accepté. Ici, la réponse est très claire. Et je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit, c'était la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin Lahmou qui disait que quoi? Qui disait que yani, si c'était possible, si ça se fait, mais si c'était possible de nos jours, que la femme aille où? Qu'elle aille chez le qadi. Naam. Chez le qadi. Naam. Et porte plainte contre son père. Pourquoi? Pour qu'il le force à la marier avec qui? Avec celui qui remplit les conditions. Ou du moins, s'il ne le force pas, alors il lui enlève la tutelle. Il lui enlève la tutelle et donne la tutelle à la personne qui mérite et qui vient en deuxième place directement après le père بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. Et je la citerai tout à l'heure si vous voulez aussi ça. Je vais citer ça tout à l'heure si vous me rappelez, Inch'Allah ta'ala. طيب. Ensuite, il a dit, maintenant, le cheikh va commencer dans le nouveau dars. Il a dit, la thayyib, la thayyib. C'est-à-dire, on a terminé avec les gens qu'on peut forcer dans le mariage. Maintenant, on va dire ceux qu'on ne peut pas forcer. Il a dit, thayyib. Thayyib, c'est celle qui, disons, perdu sa virginité, hein, et c'est déjà ou bien marié ou bien a'oudou billah a fait la zina, ou bien c'est marié ou bien a'oudou billah elle a fait quoi, elle a fait la zina. Naam. Il a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa tunkahu al-ayyim hatta tusta'mar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de celle qui s'est déjà mariée et par exemple a divorcé, hein, ou là son mari est mort, il a dit la tunkah, on ne peut pas la marier hatta tustamar, jusqu'à dise, de façon non seulement qu'elle dise mais qu'on lui demande son avis clairement et qu'on discute avec elle sur le sujet, naam, et qu'elle accepte. Il a dit pourquoi, naam. Il a dit ou Seyyibou, d'abord, c'est qui? C'est qui Seyyib Ali? On est en train de parler de celle qui a perdu sa virginité. C'est qui a dit Seyyib Ali? Seyyib, ça s'appelle comme ça. Que le prophète a dit, ne la mariez pas sans, yani, elle ne se marie pas sans son avis. C'est qui Seyyib Ali? Il a dit, هي التي زالت بكارتها بجمع في نكاح صحيح أو بزينة معارضة. C'est celle qui a perdu sa virginité, elle a perdu sa virginité dans un mariage sahih, un vrai mariage. Il y a le faux mariage, par exemple, c'est pas je dis le faux, le qui ne compte pas, par exemple, quelqu'un se marie avec sa tante alors qu'il ne savait pas. Ou bien il se marie avec la sœur de sa femme alors qu'il ne savait pas. Non. Maintenant, on parle de celle qui s'est mariée un vrai mariage avec quelqu'un dont il lui est permis de se marier avec lui. Donc, c'est celle qui a perdu sa virginité dans un mariage vrai, si je puis dire, un mariage valable, naam, ou bizina ma'arida, ou bien en faisant la zina avec quoi? Avec consentement. Naam, avec consentement. Et ici, dans le livre, ils ont ajouté, ou même en faisant la zina, en étant forcé pour faire la zina. Naam. Mes chers, Cheikh Rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yirhamou, il a dit, quand elle fait la zina avec consentement, il a dit, ça c'est clair. Non. Mais il a dit, dans la zina, quand elle est forcée, ce n'est pas clair. Non. Ce n'est pas clair. Cette chose n'est pas claire ici, parce qu'en fin de compte, elle a été forcée et elle n'acceptait pas, donc c'est comme si elle n'a pas fait. Non, quelqu'un qui est forcé pour une chose, c'est comme s'il ne m'a pas fait. Non, on m'a forcé pour insulter le prophète, alayhi sallam. On m'a forcé avec un revolver sur ma tempe. Est-ce que si je vais insulter, alors que dans mon cœur, j'aime pas, je suis contre, est-ce que j'ai insulté? J'ai pas insulté. J'étais forcé. La même chose pour la zina. Non. Et vous vous rappelez le hadith où j'ai cité que la femme avait fait la zina, était forcée au temps de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala, et que non seulement il n'a pas fouetté, mais encore il lui a donné de l'argent, non, car vraiment elle était pauvre. Al-Muhim, Al-Muhim, il dit ici, Al-Nathayib, non, d'abord avant cela, pourquoi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi quand il a parlé de la vierge, il a dit, il suffit qu'elle se taise? Et quand il parle de celle qui s'est déjà mariée, ou bien qui a fait la zina avec consentement, il a dit celle-là, on doit gagner bien, que son avis soit très clair et discuter avec elle, etc. Cela est très clair parce que celle-là, mariée, elle n'a plus honte de parler. Elle n'a plus honte de parler comme ça, pas clairement, etc. Déjà, elle s'est mariée peut-être une ou deux fois. La vierge, elle a honte de parler son père, surtout son père. Inch'Allah. Allah Ta'ala sera revenir dans quelques heures avec d'autres détails, quelque chose qui, des choses qui ressemblent à ça. Si vous m'entendez, écrivez-moi numéro 1 si vous m'avez oublié. Si vous m'avez oublié, écrivez-moi numéro 1. Alhamdulillah. طيب qu'est-ce que je vais dire aussi, alhamdulillah. Naam, il a dit le muhim, l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Il a dit al muhim, que celle qui s'est déjà mariée ou bien a fait l'azim avec consentement, c'est-à-dire celle qui a perdu sa virginité, naam, il a dit la abuha abuha illa bi idniha. Son père ne peut la marier qu'avec son consentement. Son consentement. فَإِنْ زَوَّجَهَ بِغَيْرِضَهَا فَلَا خِيَا. Si jamais il la marie sans lui demander son avis, hein, qu'est-ce qu'elle fait? Il a dit, elle a le choix. Elle a le choix entre rester avec le mari et entre se séparer de lui. Je donne un exemple. Hein, une fille ou une femme ne savait pas. Ensuite, son père lui dit, voilà, je t'ai marié avec X. Et il le cite, par exemple, elle le connaît. C'est quelqu'un du quartier. Et le mariage, inshallah ta'ala, c'est dans 20 jours, là, dans un mois. Naam. Et elle, elle connaît bien la personne. Et elle sait que ce n'est pas le genre qui lui convient. Naam. Ici, elle choisit. En islam, je vous dis en islam, elle choisit. Ou bien elle accepte, et dans 20 jours, ce sera le mariage. Ou bien elle n'accepte pas. Elle dit, je n'accepte pas cette personne, elle ne me convient pas. Naam. Il n'y a pas d'affinité entre moi et elle, je ne me marie pas avec elle. Je ne me marie pas avec l'homme que tu viens de proposer. Et comme j'ai dit, père, la force, il dit non, il faut que tu te maries avec celui-là. En islam, alhamdoulilah, l'islam lui donne la solution. Elle va seulement chez le juge et il force son père à ne pas la forcer. Naam. Il peut même le mettre en prison. Naam. Et il lui enlève la tutelle. Il lui enlève la tutelle. Mais maintenant, vous savez que naam, si on fait ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Naam. Tayyib, ici, il a dit, se basant, pourquoi? Quel est le délit? Voilà le délit que je voulais dire la fois passée. Naam. Que, comment qu'elle s'appelle la femme? La femme Khansa bintu Khudam al-Ansariya. Une compagnonne qui s'appelle Khansa bintu Khudam. C'est une Ansarite. Ansariya, qu'est-ce qui s'est passé? Son père l'a mariée, alors qu'elle était déjà mariée, et divorcée bien sûr, ou bien son mari est mort, je ne sais pas. Il l'a mariée sans son consentement. Fakarihat dhalik. Elle n'a pas accepté. Cette chose, elle a détesté. فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Elle est allée chez le prophète صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَحَهَا. Il a annulé son mariage. Elle est allée au prophète صلى الله عليه وسلم pour lui raconter voilà ce qui s'est passé. Il a annulé son mariage. Donc, on prend au moins deux choses de ce hadith. Que celle qui est forcée a le droit de ne pas accepter. Et une chose, c'est que, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est allée chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que la femme peut aller chez le juge pour lui faire part de ce qui est passé. Ça se fait. Cette femme est allée au prophète, alayhi wa sallam. Donc, moi, je peux faire comme elle et aller chez le juge musulman. Et troisièmement, on prend quoi comme intérêt? Que le juge a le droit d'annuler le mariage. Le juge a le droit d'annuler le mariage. Naam. Ensuite, naam. Ensuite, il va parler de d'autre chose. فَإِنَّ الْأَبْ وَوَسِيَوْ فِي النِّكَحْ يُزُوِجَانِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ. Naam. Il va parler de الصحيح لأن لو يوم تغمن شرع naam له نوكيل مدام حين أما بعد موت فأولا naam. Résumé, je résume ce que Cheikh va dire ici, c'est un peu long, je le résume. Il dit que si quelqu'un, par exemple le père, donne la tutelle à quelqu'un, il lui dit, supposons que un père va voyager, va aller dans un autre pays et va laisser pardon, sa fille dans son pays. Par exemple, qui peut prendre la tutelle à sa place? Il est par exemple le seul dans la famille, le seul homme. Il va donner la tutelle, par exemple, à un ami à lui. Il lui dit, Inch'Allah Ta'ala, quand tu trouves quelqu'un de, Masha'Allah, marie-la, par exemple. Ou bien marie-la avec X. Naam, par exemple. Il a dit, cela ne se fait que dans la vie. Parce que ici, dans ce livre, il est dit que même si le père meurt, cette personne à qui il a donné la procuration peut marier la fille après la mort. Il a dit non, ça c'est pas vrai. Naam. Il ne peut avoir la procuration ici que quand il est, naam, quand son père est en vie. Dès que le père de la fille meurt, la procuration qui a été donnée à son ami devient nulle et non, elle ne compte plus. Elle ne compte plus. Il a réfuté le délit ou les délits de ceux qui ont dit que ça marchait même après le mariage, même après la mort, pardon. Donc le plus vrai, que ça ne marche pas après la mort. طيب. Ensuite, il a dit que Sayyidi Ma'a et Ma'ehi. Et aussi, ceux qui peuvent forcer la femme à se marier, naam, il a dit, sans son avis aussi, que Sayyidi Ma'a et Ma'ehi, le maître qui a des esclaves femmes, une esclave de trois, il a dit, il peut les marier sans leurs avis, sans l'avis de l'esclave femme. Il lui trouve quelqu'un de bien, il lui dit, je t'ai marié. Ensuite, ils sont basés sur le verset qui dit « وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَعَصُونًا » Sourate An-Nur, verset 33. « Et ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Et ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. » Où est le délil dans ce verset qu'on peut la forcer pour le mariage? Qu'ont dit les savants? Ils ont dit, Allah Ta'ala, exalté soit, a dit, Jazakallahu khairan, puisque ne les contraignez pas, ne les forcez pas, naam, à la prostitution. Ils ont dit, donc on comprend qu'on peut les forcer pour un mariage halal. Naam, vous comprenez? Le verset est clair. Le verset a dit, ne la force pas, ne force pas ton esclave qui est femme à la prostitution. Ça veut dire quoi en fin de compte? Ça veut dire donc, mais si c'est un zawaj halal, si ce n'est pas la prostitution, tu peux la forcer. C'est comme ça qu'on comprit Dama. Naam. Tayyib. Et ensuite, le deuxième verset, subhanahu wa ta'ala, en parlant des esclaves, il a dit, فَنْكِحُهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ فَنْكِحُهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ Mariez-les, ou la mariez-vous avec elles, ces esclaves, naam, avec l'autorisation de leur maître. Avec l'autorisation de qui? De leur maître. Donc, ce sont les maîtres qui commandent. Car l'esclave, en fin de compte, quand elle est chez le maître, elle devient comme un objet. Il peut même la vendre. Il peut même la vendre. Naam. Ils ont dit, « وَلِهَذَا لَوْ قَالَتْ زُوِّجْنِي وَقَالَ لَا أُرِيدْ أَنَا لَا أُرِيدْ لا عفوا انا اريد ان اتصلك لا نزيم التزويج نعم elle lui appartient comme nous la voiture nous appartient et le frigo nous appartient et la table et les chaises nous appartiennent. Cette esclave aussi m'appartient. Quand je veux la vendre, je veux la laisser, je veux la marier. Il a dit au point où si elle dit marie-moi, elle dit à son maître, elle lui dit marie-moi, il peut lui dire non, je ne te marie pas. Mais, puisque yani, tu as l'envie de ces choses, c'est moi qui vais faire l'acte avec toi. Naam, je ne te marie pas, mais atasarrak, en arabe, atasarrak, ça veut dire je vais faire un acte qui s'appelle mulk al-yamin. Je ne sais pas comment on dit en français, mais ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage, c'est mulk al-yamin. En parlant de mulk al-yamin, je veux vous dire une chose. Naam, tayyib. Je vous ai dit la fois passée, et je répète, ma'alish, et on apprend toujours quelque chose de nouveau, surtout pour la science, c'est une chose obligatoire d'un côté,
Et de l'autre, comme ça, quand on parle avec les ennemis, etc., et même avec les égarés, même avec les chrétiens, etc., il faut qu'on ait assez de science pour leur parler. Non, assez de science pour leur parler. C'est pour ça que je vous ai dit une fois, je vous ai dit une fois, que quelqu'un qui n'a pas de science, il lui est préférable, pour ne pas dire obligatoire, de ne pas parler et rentrer dans une chose qu'il ne connaît pas. Qu'il ne fasse pas rentrer, ne se fasse pas rentrer dans un tunnel dont il ne connaît pas la sortie. Pourquoi? Il risque, ça risque de se renverser sur lui. Quand quelqu'un veut faire, par exemple, un débat ou une polémique avec toi, tu lui dis dans quel sujet? Tu lui dis dans tel sujet, tel. Il va citer le sujet. Tu sais que tu n'as pas de science dans ce sujet. Il vaut mieux dire non, j'ai pas de science. Va parler avec les savants. Car si parler, ensuite, il va triompher sur toi. Tous les autres diront donc c'est lui qui a raison et toi tu as tort. Alors que toi, en fait, tu n'as pas tort. Tu es seulement ignorant dans cette chose. Mais si le savant était là, il aurait réfuté toutes les preuves de cette personne et l'aurait même acculé. Non. Mais toi, quand tu as parlé, les gens croient que voilà, c'est ça. C'est ça, disons, les délits. Ils vont dire les preuves que tu as apportées sont très faibles. Donc l'islam, contient telle et telle chose qui n'est pas bien. Donc il vaut mieux se taire, il vaut mieux se taire et dire non, ce sont les oulémas qui parlent. Moi je n'ai pas de science pour parler, moi je suis une couturière. Et l'autre il dit moi je suis un mécanicien. Non. L'autre elle dit je ne sais pas quoi, je travaille surveillante. Ce n'est pas, Inch'Allah ta'ala, ma spécialité. Al-Muhim, regardez, beaucoup de gens croient que en parlant des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, croient que Maria est l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens croient cela. Et pourtant, ma n'est pas une épouse. C'est pour chercher les épouses, les noms des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne trouvez pas que Maria se trouve avec les épouses. Même pour ceux et celles qui connaissent les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leur nom, savent que Maria n'est pas citée dans le nom des épouses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une épouse. Naam, c'était une esclave, une coptienne. Naam, c'est une coptienne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié avec elle, un mariage que comme moi je me suis marié avec ma femme. Non, il a fait ce qu'on appelle un acte de mulk qu'on fait avec une esclave. Car en fait, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très connues, à commencer par Khadija radiyallahu ta'ala anha, ensuite Sauda, ensuite Aïcha radiyallahu ta'ala anha, Hafsa, la fille de Omar al-Khattab, Zaynab bint Khuzaima, Hind, très connue aussi, bint Hudhayfa, et je crois qu'elle avait un autre surnom, si je m'oublie pas, elle s'appelait Salama, c'est ça sa kunya. Zaynab bint Jahsh, ensuite, je vais les citer comme ça, je crois, par désordre. Hein. Jouwairiyya bint al-Haris, Safiyya bint Huyay, dont son père était juif, Naam. Maimouna bint al-Haris, et je ne sais pas si j'ai cité Ramla, Umm Habiba, c'est-à-dire la fille de, comment ça s'appelle, la fille de Abu Sofiane. Naam. Ceux-là sont les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quant à Maria, comme j'ai dit, une coptienne, il s'est marié avec elle, avec quoi? Avec Moulk Yamin. Pas avec, car il y a deux sortes de. Il y a le mariage qu'on connaît et l'autre qui s'appelle Moulk Yamin. Pourquoi? Parce que j'ai dit c'est une esclave et je ne sais pas si vous savez, en islam, il est interdit à quelqu'un qui n'est pas esclave de se marier avec une esclave. Parce que vous savez ça, c'est dans le verset. Naam. En islam, il est interdit à quelqu'un qui est libre de se marier avec une esclave. Sauf quoi? Sauf, par exemple, il n'a pas trouvé une femme libre et affranchie. Par exemple, il veut se marier avec, disons, Nadia, et Nadia a demandé beaucoup, beaucoup d'argent. Il veut avec l'autre beaucoup d'argent, avec l'autre beaucoup d'argent. Comment il va faire pour la dot? Il n'a pas beaucoup d'argent. Dans ce cas, il peut se marier avec une esclave. Et deuxième condition, il faut qu'il soit vraiment dans la daroura. Dans la daroura, il a peur de tomber dans la fitna de la zina. Car il se peut qu'il n'ait pas peur. Alors celui-là, qu'il attende jusqu'à ce que Allah Ta'ala l'enrichisse et se marie avec une femme libre et non esclave. Et troisième condition, il faut qu'il n'ait pas assez d'argent pour acheter, non, pour acheter quoi ? Pour acheter une esclave. Car si on l'achète, on ne se marie pas avec elle, mais on fait Mulk al-Yamin, a fait le prophète alayhi salam avec Maria. C'est pour ça que Ibrahim, que le prophète alayhi salam a eu de Maria. Non ? On ne dit pas de sa mère, on ne dit pas de sa mère, c'est la femme du prophète alayhi salam. Mais on dit Ummu Walad, on dit c'est la mère de son enfant. On ne dit pas c'est sa femme, on dit c'est la mère de qui ? De son enfant. Pourquoi on ne se marie pas avec une esclave en islam ? Vous ne savez pas pourquoi ? Parce que si quelqu'un de libre, se marie avec une esclave, il va avoir des enfants, les enfants seront des esclaves. Or, l'islam est venu pour affranchir les esclaves. Et maintenant, toi, tu vas te marier avec cet esclave, tu vas avoir 6 ou 7 enfants, ils vont être tous des esclaves. Tes filles et tes enfants vont se vendre dans le souk, dans le marché, comme on achète les habits, on achète la pomme de terre, etc., on va acheter tes enfants. Donc, tu as été la cause pour propager les esclaves. L'islam est venu pour, yani, libérer les esclaves. Mais, en islam, si tu fais le deuxième acte dont j'ai parlé, qui s'appelle Mulk Yamin avec elle, elle est comme ta femme. Tu peux faire avec elle ce que fait l'homme avec sa femme. Et avoir des enfants avec elle, et les enfants seront quoi ? Seront, mashallah, des enfants libres. Ils ne seront pas quoi ? Ne seront pas esclaves. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié avec elle. S'il s'était marié avec Maria, Ibrahim aurait été un esclave, son fils. Alors que Ibrahim, tout le monde sait que ce n'est pas un esclave. Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort à l'âge de 8 mois, n'est pas un esclave. Pourquoi ? Parce que, alhamdoulilah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié avec sa mère, avec Maria. Mais il a fait quelque chose qu'on appelle Mulk al-Yamin, Aqd Mulk al-Yamin. Ce Mulk al-Yamin dont je parle, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois, je vous demanderai de me dire est-ce que vous l'avez cherché, qu'est-ce que ça veut dire Mulk al-Yamin, pour me le dire, Inch'Allah Ta'ala. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, vous aussi, vous m'aidez et vous faites des efforts, Inch'Allah Ta'ala, avec moi. Naam, vous cherchez en islam. Il y a deux façons. Il y a le mariage et il y a avec l'esclave qui ne s'appelle pas le mariage, mais elle devient ta femme. Mais la différence, c'est quoi ? C'est que si tu te maries avec l'esclave, tu as des esclaves. Et si tu ne te maries pas et tu fais le deuxième acte dont je ne connais pas le nom, alors tes enfants seront, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'ils seront ? Ils seront libres. Pardon, ils seront yani, libres, c'est ça. Ils ne seront pas des esclaves. Non, car en fait, apprenez cette règle. Je vais vous dire une règle. Si quelqu'un peut l'apprendre, elle peut beaucoup, beaucoup l'aider. S'il comprend cette règle et il l'apprend, mashallah, elle peut beaucoup, beaucoup l'aider. Regardez. En général, en islam, le nouveau-né, que ça soit un être humain ou un animal, je parle en général de quelqu'un qui naît, soit un animal, soit un être humain, il n'y a pas d'importance. Le nouveau-né, son père, si ce sont des êtres humains, il suit son père, fil nasab. Un nasab, disons, je ne sais pas comment on dit ça en français, disons peut-être le fait de prendre son nom, etc. Dans l'appartenance, si je puis dire l'appartenance. Naam. Moi, par exemple, Chalabi, naam, ma mère a un autre nom de famille que celui-là, c'est sûr. Mais moi, je n'ai pas pris le nom de ma mère, mais j'ai pris le nom de mon père. En islam, chaque nouveau-né, si c'est un être humain, suit son père dans l'appartenance, c'est-à-dire le nom, etc. Voyez. Donc, premièrement, il suit son père dans l'appartenance.
Deuxièmement, il suit la mère. Il suit la mère, pas le père. Maintenant, regardez, ça a changé. Il suit la mère dans la liberté, l'affranchissement et l'esclavage. Très, très, très important. L'ankabout ou la wasmak Ibn Jouzia. Écrivez, Inch'Allah, premièrement, deuxièmement, ensuite, il y a troisièmement, quatrièmement. Que ce soit très clair. Hein. Ensuite, vous les réécrivez les quatre à la fois. Maintenant, à chaque fois, je dis une chose. Vous l'écrivez, ensuite, les quatre à la fois. Il suit qui? Il suit le père dans l'appartenance. C'est-à-dire, je suis le fils de qui? Je suis le fils de, je cite mon père, qui lui-même est le fils de son père. Et comme ça, je ne cite pas ma mère. Ma mère n'a rien à voir. C'est question de quoi? Question de nasab et appartenance. Jazakallah. L'appartenance, c'est-à-dire le nom, etc. Tu es de qui? Je suis de X. Je cite mon père, mon grand-père et je monte. Deuxièmement, il suit la mère. Question d'esclavage et affranchissement. Il suit la mère, question d'esclavage et affranchissement. C'est pour ça que il est, comme j'ai dit, interdit de quoi? De se marier avec une esclave. Parce que l'esclave, qu'est-ce qu'elle donne? Étant esclave. Et le nouveau-né suit dans l'esclavage et l'affranchissement. Il suit qui? Son père? Il suit sa mère. Donc, mon fils sera esclave. Regardez. Il suit la mère dans l'esclavage et l'affranchissement. Si quelqu'un de libre se marie avec une esclave, il aura un enfant esclave. Je donne le contraire. Je donne le contraire. Si une femme qui est libre, se marie avec un esclave, qu'est-ce qu'elle donne? Je vous pose la question à vous trois qui n'avez pas le point rouge. Il y a une femme qui est libre. Elle s'est mariée avec un esclave. Ils vont avoir des enfants. Est-ce que les enfants sont libres ou bien vont être des esclaves? Des enfants libres. Non, pourquoi? Car la femme était libre et elle s'est mariée avec un esclave. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas marié avec l'esclave. Mais il a fait Moukl Yamin. Il a fait ce qu'on appelle Moukl Yamin. Donc, si quelqu'un se marie avec une esclave, le mariage, pas le mariage, l'autre, qu'on appelle Moukl Yamin, il aura des enfants libres. Donc, l'esclave, on ne peut pas se marier avec elle, mais on doit faire Moukl Yamin. Pourquoi? Pour avoir des enfants libres. Mais si jamais quelqu'un se marie avec elle, avec la dot, les témoins, etc., c'est quoi? Alors il aura des enfants esclaves. C'est pour ça que Maria, la mère de Ibrahim, la coptienne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait avec elle un mariage, mais a fait ce que j'ai appris. Troisièmement, le nouveau-né suit le meilleur des parents dans le dîn. Troisièmement, le nouveau-né suit le meilleur des deux parents dans le din. Le nouveau-né suit le meilleur des deux parents dans le din. Je donne un exemple. Un musulman s'est marié avec une chrétienne. Ils ont eu un enfant. L'enfant, est-ce qu'il est chrétien ou est-ce qu'il est... J'attends votre réponse. Un musulman s'est marié avec une chrétienne ou avec une juive. Ah, son enfant sera musulman. Pourquoi? Qui est le meilleur des deux parents? C'est le père qui est le meilleur des deux dînes, pardon. C'est l'islam. Donc l'enfant sera musulman. Regardez la question maintenant. Si un bouddhi, vous savez ce que c'est un bouddhi? Un hindou qui adore les statues et le feu. Statues et le feu et les rats et autre chose. S'est marié avec une juive. Ils ont eu un enfant. Est-ce que l'enfant est juif ou là il est hindou? Est-ce que l'enfant est juif ou bien il est hindou? J'attends votre réponse. Il est juif. L'enfant est juif. Barakallahu fik. Pourquoi? Parce que entre l'hindouisme et le judaïsme est mieux. Au moins, ils ont un livre du ciel. Ils ont un livre du ciel. Mais les hindous, ils n'ont rien. Ils adorent les rats. Et ils adorent, comme j'ai dit, le feu, le soleil, ils adorent tout. Ça, c'est troisièmement. Regardez quatrièmement. Donc, troisièmement, c'est quoi? C'est que le nouveau-né suit le meilleur des deux parents. Quatrièmement,
bon élève suit le plus mauvais des deux parents. J'ai dit troisièmement, le nouveau-né suit les meilleurs des deux parents en ce qui concerne le din. Maintenant, le nouveau-né, quatrièmement, suit le plus mauvais, c'est pas le meilleur, le plus mauvais des deux parents en ce qui concerne la purification et la souillure. Et en ce qui concerne le halal et le haram, est-ce qu'il se mange, est-ce qu'il se mange pas. Écrivez d'abord ça et je vais expliquer, inshallah ta'ala. Il suit, vous écrivez, on suit le pire des deux parents. Non, le pire des deux parents en ce qui concerne la purification et la souillure, le halal et le haram. Donc, je vais vous poser une question, vous allez répondre, inshallah ta'ala. Vous allez répondre, inshallah ta'ala. Tayyib, l'âne, c'est accouplé avec la jument. L'âne, c'est accouplé avec la jument. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une mule. Ça donne une mule. L'âne, quand il s'accouple avec la jument, ça donne quoi? Ça donne une mule. Maintenant, la mule, son urine, est-ce que c'est son urine, est-ce qu'elle est souillée ou est-ce qu'elle est pure? Et la mule, on peut la manger ou on ne peut pas la manger? Appliquez la règle ici et donnez-moi la réponse, barakallahu fik. J'attends la réponse. Allahu alam, Allah yahdik ya ibn al-qayyim. Ne dis pas Allahu alam. Tu appliques la règle directement ici. C'est comme les mathématiques. 1 plus 1 égale 2. Ibn al-qayyim, donne-moi ta réponse. Jazakallahu khayyam. Donne-moi, sinon je vais te bouncer aujourd'hui, toi. Je vais te montrer comment tu ne peux pas appliquer cette règle. Donne-moi la réponse maintenant. Il n'est pas licite. Donc, que dit la règle? Question 2, je vous ai demandé question de souillure. Et question 2, ça se mange ou ça ne se mange pas? Il suit qui? Le nouveau-né suit le pire des deux parents. C'est qui le pire des deux parents, le plus sale, le plus mauvais? C'est l'âne ou là, c'est la jument? C'est l'âne. Pourquoi? Quelle est la preuve? L'âne ne se mange pas. L'âne ne se mange pas, la jument se mange. L'âne, son urine est souillée. La jument, son urine n'est pas souillée. Et, puisque la règle dit qui suit le plus pur c'est qui? C'est l'âne. Or, la jument, je ne peux ni manger sa viande, naam, je peux, pardon, pas la mule, je ne peux ni manger sa viande et souillée. Pourquoi? Parce que, yani, il suit le pire des deux parents. Maintenant, écrivez-moi la règle totale, la règle des quatre points, les quatre points que j'ai donnés, écrivez-les, vous devriez les noter. Non, vous devriez les noter, c'est quelque chose de très important, inshallah ta'ala, qui vous servira plus tard, inshallah ta'ala, dans le fiqh. Commençons-moi les quatre règles, ou la règle que je vais idnillahi subhanahu wa ta'ala. Les quatre points, c'est-à-dire. Coran et Sunna, es-tu là? Écris 1 pour savoir que tu es là. Naam, quand tu écrivais tout à l'heure 1, 2, 3, 4, voilà, j'avais dit, je veux laisser ça. Premièrement, il suit le père dans l'appartement. Le nouveau-né suit le meilleur des parents dans le din. Le nouveau-né suit le pire des parents. Non, tu as sauté une chose. Tu as sauté une chose. Naam, tu as sauté le deuxième mot. Donc, il suit le père dans l'appartenance. Il suit la mère dans l'esclavage et l'affranchissement. Il suit le meilleur des parents dans le din. Il suit le pire des parents dans la purification et la souillure. On prend aussi une règle, une petite règle ici, de la mule. La mule, pourquoi aussi on ne va pas la manger? Parce qu'elle vient de quoi? Elle vient de halal et de haram mélangés. Elle vient de l'âne qui est haram, et de la jument qui est halal, et se sont mélangés au point où on ne peut plus discerner entre ce qui est halal et ce qui est haram. Est-ce que quelqu'un qui va manger la cuisse de la mule, est-ce qu'il peut dire cette partie appartient à la jument, bien cette partie appartient à l'âne? Elle ne peut pas dire. Donc, d'ici on va prendre l'autre règle, c'est quoi? C'est que quand le halal et le haram naam, se mélangent, et on ne peut plus discerner entre les deux, on laisse le tout. On laisse le tout, ça c'est une autre règle. Quand le halal tam, se mélange et on ne peut plus savoir où est le halal, où est le haram. On ne peut plus. Qu'est-ce qu'on fait? On délaisse le tout بإذن الله سبحانه وتعالى. Ce qui nous importe ici, c'est quoi? C'est le, attendez, c'est le deuxième mot. Il suit la mère, l'approche et l'affranchissement. Quiconque se marie avec une esclave, et c'est interdit, sauf avec trois conditions que j'ai citées, alors s'il se marie, ses enfants seront des esclaves. Et l'islam est venu pour affranchir les esclaves. Mais l'islam lui a donné un nom, c'est qu'il fasse mulk al-yamin. Au lieu de se marier, il fait ce qu'on appelle mulk al-yamin, et il peut faire tout ce qu'il peut faire avec sa femme, il peut le faire avec l'esclave. Et il gagne autre chose, il gagne que ses enfants seront libres, mashallah, et non pas des esclaves, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Maria. Tayyib, on va à autre chose. Il a dit وكذلك السيد مع إمائه فهل يجوز إطلاق سيد على المالك؟ نعم. Il a dit celui qui a des esclaves. نعم. Celui qui a des esclaves. نعم. Est-ce qu'on peut l'appeler? Il a dit le mot سيد هذا. Est-ce qu'on peut dire سيد à une personne en général? Disons en général. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un سيد? طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من قال لي منافق سيد pardon, ce hadith ça fait au moins 20 ans ou là que je ne l'ai pas dit, attendez que je me rappelle un peu comment on dit ce hadith, je l'ai lu dans Sisila Sahiha du Sheikh Al-Albani peut-être il y a 22 ou 23 ans, attendez, je dis à peu près son sens, quiconque dit un munafiq, un hypocrite, il lui dit سيد, maître, il a dit à peu près يعني فقد أغضب الله, à peu près, yani Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il couvre ses comptes lui. À peu près, c'est comme ça. Non. Alors, le hadith, ça fait très très longtemps que je n'ai pas cité. Voyez, peut-être je le cherche maintenant, même pas là. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Non, une seconde. Je cherche le livre de l'Albani, si je peux le trouver. Pour ne pas perdre de temps, la Sralina, ne pas perdre de temps, le hadith est sahih, c'est à peu près en ce sens. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire, on ne doit pas dire, Sayyid à qui? À Munafiq. À Munafiq. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé le mot Seyyid. Le mot Seyyid, il a employé. Il a dit Ana Seyyid walad Adam. Je suis le fils des enfants d'Adam. Ana Seyyid, pardon, je suis le maître des fils des enfants d'Adam. Il a dit Qumu ila Seyyidikum. Levez-vous pour Seyyidikum. C'est quelqu'un qui, je crois, Sa'd ibn Ubada, si je ne me trompe pas, qui est arrivé comme ça blessé sur le cheval, il a dit levez-vous pour votre maître. Naam, levez-vous pour votre maître. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran wa alfaya sayyidaha ala dalbab. Et ils trouvèrent son maître devant la porte, le maître de la femme du roi. Ils trouvèrent son maître devant la porte. Donc le mot maître, sayyid, on peut l'employer, mais d'après ce qu'on veut dire. Mais si c'est quelqu'un mounafaq, hypocrite, on ne lui dit pas Seyyid ou Seyyidi. Naam, on ne lui dit pas Seyyidi. Naam. Mais est-ce qu'on peut dire Seyyida en parlant d'une femme? En parlant d'une femme, est-ce qu'on peut dire Seyyida? J'avais lu une fois dans une des fatwas de Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yirhamou, naam, une fatwa, où il avait dit qu'on ne peut pas dire d'une femme, on ne peut pas dire d'une femme « Seyyida ». Non, il a dit parce que « Seyyid » c'est l'homme, c'est lui le maître. On ne peut pas dire « elle aussi c'est la maîtresse ». Il a dit on ne peut pas dire de la femme le mot « Seyyid ». On n'emploie pas « Seyyida ». Non. Il s'est basé sur le verset « Wa alfaya Seyyidaha ». Il a dit parce que Allah Ta'ala dit « Seyyidaha ». C'est lui son maître. Et d'elle, on ne dit pas yani, le mot « maître ». Mais n'empêche que j'ai trouvé dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fatimatu Sayyidatu Nisa'i Ahl al-Jannah. Fatima, Sayyidatu, la maîtresse des femmes du paradis.
حديث 4190 dans Sahih al-Jama'. Fatima radiyallahu ta'ala, la maîtresse des femmes du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, kullu nafsin min bani Adam sayyid. Il a dit, toute âme de bani Adam, des fils d'Adam, c'est quoi? Sayyid. C'est un maître, ou c'est une maîtresse. Il a dit, ar-rajulu sayyidu ahlih. L'homme, c'est le maître de, disons, sa famille. Ou l'mar'atu sayyidatu baytiha. Et la femme, c'est la maîtresse de sa maison. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tayyib. Ensuite, il va dire wa sumatuha, pardon. Illa bi'idniha wa huwa subbikr. On avait dit tout à l'heure que quand on demande d'une femme si elle est encore vierge, pour savoir qu'elle a accepté, quoi, elle doit se taire. Il a dit, elle doit se taire. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, elle doit se taire. Il a dit, si Cheikh Larahmo, walou baket ou zahiket. Cheikh Larahmo dit que, d'après le livre ici, même si elle a pleuré ou si elle a ri, ça ne joue pas un grand rôle. L'essentiel, c'est quoi? Il faut qu'elle se taise pour savoir qu'elle a consenti. Le Cheikh Larahmo a dit, amma idha dhahikat fa zahir annaha radiya. Il a dit, maintenant si elle a ri, elle a, disons, souri ou ri, il a dit, c'est très clair qu'elle a accepté. Naam, c'est très clair qu'elle a accepté. Wa amma idha bakat, mais si elle a pleuré, les ulama yaqulun inna hadha la yadull ala adam ar-ridha. Si elle a pleuré, il a dit, les savants ont dit, ce n'est pas une preuve qu'elle a consenti. Ce n'est pas une preuve, pardon, qu'elle n'a pas consenti. Ce n'est pas une preuve qu'elle n'a pas consenti. Bel qad yadul ala rida. Mais au contraire, ça peut être un délit de consentement. Son pleur peut être un délit de consentement. Wa annaha bakat li firaqi abawiha. Lamma arafat annaha idha tazawwajat satufariquhuma fala yadul dhalika ala al-karaha. Il a dit, regardez, les ulama vont très loin. Quelqu'un dit à sa fille, voilà, X s'est présenté pour toi, pour se marier avec toi. Ou bien elle le connaît, il lui dit c'est X, il le cite, ou bien il le décrit. C'est quelqu'un qui a le din, machallah, je le vois toujours à la mosquée avec nous, il travaille dans telle chose, etc. Et il attend qu'elle dise, par exemple, j'accepte, et voilà qu'elle a commencé à pleurer. Normalement, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'elle n'a pas accepté, parce qu'elle a pleuré. Mais j'ai dit la fois passée que les différences entre qu'elle pleure a-t-elle pleuré, des larmes chaudes ou des larmes froides. Mais ici, Cheikh Rahimallah va ajouter quelque chose. Il va dire, le fait qu'elle pleure, ce n'est pas un délit qu'elle n'a pas accepté. Mais au contraire, ça peut être un délit qu'elle a accepté. Comment cela? Naam. Elle a pleuré parce qu'elle sait qu'elle va se marier avec lui et qu'elle va s'éloigner de ses parents et ça l'attriste et ça l'afflige. Naam, c'est pour ça qu'elle a pleuré. Subhanallah al-Azim. Aucun de nous n'aurait pu penser à cette chose, hein, si ce n'est pas les ulama, les gens de la science qui yani, remarquent des choses comme ça, yani, des choses que personne ne pourrait remarquer. Si c'était ma fille, je lui dis je te marie avec X, mon voisin, elle pleure, je vais directement dire à mon voisin, écoute, ne reviens plus jamais me demander la fille. Akhlas, elle a éclaté en sanglots. Barakallahu fik, jazakallahu khair, smahna kathiran. Alors que là, elle a pleuré parce que, ça veut dire qu'elle a accepté et qu'elle a pleuré parce qu'elle aime beaucoup, elle aime beaucoup sa mère et elle sait qu'elle va nous quitter. Subhanallah al-Azim. Naam. Notez si vous avez ensuite des remarques ou des choses ou là, je ne sais pas quoi. Ensuite, il a dit, le plus étonnant, il a dit, c'est que l'imam Ibn Hazm rahimahullah a dit que si elle parle et elle dit j'accepte, ce n'est pas accepté. Il a dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut. Il a dit quoi? Si elle se tait, elle a accepté. Le prophète alayhi salam a dit, son consentement, c'est le fait qu'elle se taise. Et Ibn Hazm a dit, donc si elle parle et elle dit j'accepte, on n'accepte pas ce mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé, il faut qu'elle se taise. Bien sûr, ça c'est très 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 loin de l'islam et de la réalité. Ce qu'a dit ce grand savant, qui est un grand savant, ce qu'il a dit ici, il est très loin de la réalité. C'est pour ça que chaque personne en prend d'elle et chaque personne en prend l'appui de mes raisons. Naam. Car si elle parlait, naam, si elle disait oui, mon père, خلاص, il va annuler son mariage, Ibn Hazm. Naam, il faut qu'elle mette le scotch naam, et qu'elle ne dise jamais j'ai accepté, sinon c'est non. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Naam, le prophète Ali, pourquoi il a dit le fait qu'elle se taise? Parce qu'il sait, qu'elle est vierge, elle ne s'est jamais mariée, elle a 17 ans, elle a 18 ans, elle a 20, elle est encore jeune. Elle ne peut pas dire comme ça, j'ai accepté devant son père. Il y a des pères qui sont vraiment, yani, même si elle lui dit j'accepte, il va s'énerver. Il va dire comment, elle n'a pas en 2 mois dit comme ça devant moi ces choses-là. Elle veut un homme. Qu'est-ce qu'elle a ma fille, il va dire à sa femme. Qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Elle veut les hommes. Naam. C'est pour ça, elle se tait, comme ça dit l'islam. Mais si le père est compréhensif, et lui dit oui mon père, j'ai accepté. Normalement, khalas, alhamdoulilah. Ibn Hazm dit non. Parce qu'elle a dit j'ai accepté, donc non. Subhanallah al-Azim. Il n'y a pas plus drôle que cela. C'est pour ça que je vous ai dit, la règle c'est que quoi? Chaque personne en prend d'elle et on ne prend pas, sauf sahib had al-qabr, sauf celui qui est dans cette tombe. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf le prophète alayhi wa sallam. Quand il dit une chose, on la met sur les yeux et sur nos têtes. Toute autre personne, même si c'est un grand savant, on doit mesurer ses paroles et voir si elles sont yani, étayées par des délits ou pas. Naam. Vous voyez un grand savant ce qu'il a dit ici. Donc il dit donc d'après Ibn Hazm yani, si elle dit oui, j'ai accepté mon père, d'accord, j'ai accepté, barakallahu fik, oui, j'ai accepté, non. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais saut. Naam. Enlève, inshallah, le rouge à Ibn al-Qayyim. Je dis, dites-moi où est-ce que j'étais exactement. Naam. Où est-ce que je... Qu'est-ce que vous avez entendu à la fin? Je me suis arrêté où? Vous m'avez envoyé de Ramla. Ramla, avec laquelle le prophète Sarasun l'a épousée quand elle était en Éthiopie. Est-ce que vous avez entendu ça? J'attends votre réponse, inshallah. Vous m'avez entendu parler de la femme qui s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'Éthiopie. Tayyib, êtes-vous avec moi, inshallah ta'ala? Êtes-vous avec moi? Je crois qu'il y a un décalage. Tayyib, j'ai pas entendu cela. Tayyib. Naam, Coran Sunna. Tafadhal. L'essentiel, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? L'essentiel, c'est est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, alhamdoulilah. Naam, comme ça, je ne suis pas dans la liste. Naam, je ne suis pas dans la liste. Masha'Allah, moi je vous vois, vous ne me voyez pas. Naam, comme ça, quiconque rentre dans la salle, il va se dire, subhanallah al-azim, il n'y a ni micro, ni quelqu'un qui parle, et on entend des doros. Naam, tayyib. Pour que ça ne soit pas un sujet à ambiguïté, je sors et je reviens. Salamu alaykum wa rahmatullah. Est-ce que vous me voyez cette fois? Alhamdulillah. Tayyib. La troisième condition, c'était quoi? Le tuteur. C'est très important, le tuteur. Pour bien suivre ce dars, surtout pour les frères. Les frères, ils cherchent des sœurs, ensuite ils ne savent pas si cette personne est tuteur ou n'est pas tuteur. La première condition, le tuteur, son délit, c'est dans le Coran. Dans le Coran, Allah Ta'ala a dit « Wa la tunkihu mushrika yu'minu » et « ne mariez pas les associateurs jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants. » Remarquez, Allah Ta'ala ne s'est pas adressé aux femmes. Il ne leur a pas dit « Ne vous mariez pas avec les associateurs jusqu'à ce qu'ils croient. » Mais il s'est adressé aux parents. Il a dit, ne mariez pas vos filles avec les associateurs jusqu'à ce qu'ils croient. C'est le délit de quoi? Le délit que la femme se marie. Car ici, Allah Ta'ala a parlé avec ses parents et non pas avec elle. Ça, c'est le premier délit.
Le deuxième délil, Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يِنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Al-Baqarah 232. Ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux s'ils s'agréent l'un l'autre. Donc, Allah Ta'ala s'adresse à qui? Il s'adresse aux parents. Ne les empêchez pas de renouer. Donc, c'est un délil que les parents peuvent empêcher. Ce n'est pas peuvent, mais que les parents des fois empêchent la femme de se marier. Ou alors, ils peuvent l'empêcher quand quoi? Elle ne remplit pas les conditions. Non, ils l'empêchent. J'empêche ma fille de se marier avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle ne remplit pas les conditions. Donc, Allah Ta'ala dit, ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux. Et il n'a pas dit aux femmes, il ne s'est pas adressé aux femmes, mais il s'est adressé aux parents. C'est une preuve que quoi? Que la femme doit avoir un tuteur. Ensuite, le hadith est très clair. Nikaha illa biwali. Pas de mariage. Rajaw Ahmed et les autres, c'est un hadith sahih. Sahaw Sheikh al-Albani fil Irwa. Hadith 1839. Hadith 1839. La nikaha illa biwali. Pas de mariage sans tuteur. Maintenant, Cheikh Rahimahullah va montrer qu'est-ce que ça veut dire pas de mariage sans tuteur. Alors que on peut voir qu'il y a des mariages sans tuteur. Qu'est-ce que ça veut dire pas de mariage alors que nous on voit des mariages. Le Cheikh veut dire pas de mariage, c'est-à-dire ce n'est pas que le mariage ne peut avoir lieu. Si je peux sans wali me marier avec une femme, le mariage a eu lieu, donc il y a le mariage. Mais ici, pas de mariage, ça veut dire pas de mariage valable. Hein, ce n'est pas que le mariage n'a pas lieu. Il a lieu, mais il n'est pas valable. Donc, quand il a dit pas de mariage, ça veut dire pas de mariage valable en islam chez Allah, son tuteur. C'est pour ça, dans un autre hadith, toute femme qui se marie sans tuteur, son mariage est nul, nul, nul. Naam. Et c'est une zaniya, elle est dans la zina, jusqu'à ce que yani, elle fasse le aqd, elle fasse le halal. Tayyib. Pourquoi maintenant? On va d'abord dire pourquoi en islam, il faut que ça soit le tuteur qui la marie. Premièrement, inna al-mar'a da'ifatu al-aqli wa-d-dini, sari'atu al-aqifa, sahlatu al-khida, yumkin an ya'tiya shakhsun min afsaq al-nas, ويغرها ويحمد نفسه عندها. Il a dit parce que la femme est faible de din, dans le din, et faible dans le aql, aussi dans le raisonnement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien montré que la femme restait des fois une semaine, des fois restait chaque mois, elle reste quelques jours sans faire la prière pendant son cycle. Donc comparé à l'homme, elle est faible dans le din, parce que pendant le cycle, quand elle ne fait pas la prière, déjà elle est plus ou moins loin d'Allah par rapport à l'homme qui fait la prière. Il est en relation avec lui pendant les 5 jours ou les 6 jours où elle ne fait pas la prière. Alhamdoulilah, elle est excusée et elle n'a pas de péché. Allah Ta'ala lui a donné ça aussi comme rahma pour qu'elle se repose. C'est une rahma. Naam, pour elle, pour qu'elle se repose. Elle a beaucoup de responsabilité, elle a besoin de quoi? De repos aussi. Et elle peut aussi compenser cela en lisant le Coran, en faisant beaucoup, beaucoup d'autres choses. Non, en faisant beaucoup d'autres choses qui remplacent, bon, qui ne remplacent pas la salat, mais qui, alhamdoulilah, la mettent en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est faible dans le raisonnement, disons dans, je ne sais pas si on appelle ça le cerveau, l'aql, elle est faible dans l'aql, car quand on a besoin de témoignages, un homme suffit, mais une femme ne suffit pas. Il faut deux femmes. Sauf si c'est vraiment une question de féminité entre les femmes. Vraiment, entre les femmes, par exemple, une femme a dit, cette personne نعم a allaité de cette personne ou bien j'ai allaité cette personne. Une seule femme ici témoigne, ça suffit. Naam, car ce sont des choses que les hommes ne peuvent pas voir. L'homme ne peut pas voir telle femme, par exemple, avec sa poitrine découverte, en train d'allaiter un bébé. Mais une femme voit cela. Elle est avec des femmes. Quand je dis voit cela, ça ne veut pas dire qu'elle peut voir, pardon du mot que je vais dire, elle peut voir ses seins. C'est interdit pour une femme de montrer ces deux choses à une autre femme. Naam. Mais elle peut voir en général que quelqu'un est en train d'être allaité chez cette femme. Naam. C'est pour ça qu'elle peut témoigner sans avoir recours à une deuxième femme dans les choses intimes, c'est tout. Dans les choses intimes qui se passent entre les femmes. Al-Muhim. Sinon, il faut deux femmes. Sinon, il faut deux femmes. Car la femme, il y en a beaucoup de problèmes. Elle oublie, il y a les enfants, il y a la cuisine, il y a le ménage, il y a beaucoup de choses. Elle oublie. C'est pour ça qu'elle a besoin d'une deuxième femme. Pourquoi? Pour la faire souvenir, bi-idhnillahi, azza wa jal. Et ça me rappelle ici une chose, c'est que une fois, la mère de l'imam Shafi'i, rahimahullah, l'imam Shafi'i, l'un des quatre grands savants. Sa mère, une fois, a été appelée dans un tribunal pour quoi? Pour témoigner. Taïb, écrivez mon numéro 1, ça fait longtemps, je n'ai pas vu le 1. Elle a été appelée pour témoigner. Il y avait aussi une autre femme qui devait témoigner, car il fallait quoi? Il fallait deux femmes. Et le juge les a séparées. Il a mis une dans une chambre, une dans une chambre. Pourquoi? Pour qu'elles ne se mettent pas d'accord pour mentir, par exemple. Et la mère de Shafi'i, qui bien sûr, c'est elle, bi'idhnillah, qui a enfanté Shafi'i, c'est sûr qu'elle a aussi du inma, c'est sûr. Hein? Elle a dit au juge, pourquoi vous m'avez séparé alors que Allah Ta'ala dit dans le Coran, pourquoi vous m'avez séparé alors que Allah Ta'ala dit dans le Coran, si quand une femme témoigne, oublie, alors l'autre lui fait rappeler. Et pour qu'elle me rappelle, il faut qu'elle soit avec moi, cette femme. Pourquoi vous m'avez mis chacun dans une chambre? Subhanallah, regardez comment elle connaît le verset et elle a pu se baser sur ce verset pour dire à l'autre, au juge qui s'est trompé, de ne pas l'avoir mise avec l'autre femme qui allait témoigner. Al-Muhim, il a dit, puisque la femme maintenant est faible de dîme et de cerveau, alors, on peut venir, c'est la plus perverse du monde. Un homme des plus pervers du monde peut venir et la tromper. Et peut la tromper. Il a dit pourquoi? La femme est facile à duper. Est facile à duper. Il faut lui venir du côté des sentiments. Et que, ma soeur, toi, tu vas être la reine, toi, je vais te construire la plus belle villa du monde. Naam. Or, yani, tu n'auras plus où le mettre. Ah, l'or, je t'amènerai des kilos d'or. Les chaînes, les bracelets, ceci, cela. Et te construire un chalet, un château, la dernière voiture. Elle rentre, mais ce qu'il y a dans le jeu. Elle rentre dans le jeu. Ce n'est pas obligé, vient du côté de la dunya. Il peut être très pauvre. Il lui veut gentiment. Naam. Rien ne te manquera avec moi, ni douceur. Naam, ni douceur. Amour. Ni ceci, ni cela. Subhanallah, on fera ceci, on fera cela. Très, très facilement. Alors que ça peut être la personne la plus perverse peut-être du monde, alors du pays ou de la ville. Non, mais peut être la personne la plus perverse. Taro. Non. Donc, Allah Ta'ala a légiféré et alors qu'elle ne peut se marier que s'il y a un homme avec elle qui la seconde. Un homme, debout avec elle, qui a vu dans cette affaire et il est là debout pour signer le mariage, qu'on appelle le tuteur. Naam. Fasara nadaru ma'al athar yaqtadi annahu la yasih an-nikah ila biwali. Donc, maintenant on a des hadiths, On a du Coran, on a du raisonnement, tout ça, c'est groupé pour donner la conclusion que une femme ne peut pas se marier si elle n'a pas de wali, si elle n'a pas de mahram. Non. ويستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يتزوج بدون ولي وله أن يتزوج مع وجود الولي سبحان الله العظيم sauf le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم sauf le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم qu'est-ce qu'il peut? Il peut se marier sans wali. نعم le prophète صلى الله عليه وسلم je répète a beaucoup de particularités, hein? A beaucoup de particularités. Il y a même des livres qui ont été écrits spécialement pour montrer quelles sont les particularités du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Naam. L'une des particularités qu'on va citer aujourd'hui, c'est que quoi? Il peut, masha'Allah, se marier sans avoir besoin de qui? D'un mahram. Sans avoir besoin d'un mahram. Naam. Il vient... Il voit une femme, il lui dit, est-ce que tu accepterais de te marier avec moi? Si elle dit oui, naam, ce n'est pas la peine qu'elle cherche son mahram. Il se marie direct avec elle, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et plus que cela, il peut se marier avec elle en présence de son mahram, sans lui demander son avis. Allahu Akbar. Une femme, une fille, est avec son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à sa fille, veux-tu te marier avec moi? Si elle dit oui, peut-être qu'elle va se marier avec un autre, hein, on ne sait jamais. Ou elle est alors elle est préparée pour un autre. Hein? Si elle dit oui, j'accepte, ce n'est pas la peine, s'il veut. Il ne demande pas l'avis de son père. Je t'ai, hein, je t'ai épousé, tel et tel. Dot, tel et tel. Naam. Il peut. Qu'est-ce qu'il peut? Il peut aussi se marier avec une femme sans la dot. Se marier avec une femme sans la dot. Tayyib, je vais vous poser une question très très simple. Pourquoi, naam, vous les trois qui n'avez pas de point rouge, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut se marier, naam, sans l'avis du mahram? En sa présence, sans le mari du mahram, pardon, sans le mahram de la femme, en sa présence, il est présent devant elle, il ne lui demande pas son avis. Il se marie avec sa fille. Pourquoi il peut? Ah, si vous pouvez me répondre, j'attends votre réponse sur la table. Ah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout, hein? Il n'y a pas une hikma, il n'y a pas une sagesse. Ah, jazakallahu khair, voilà ce que j'attendais. Jazakallahu khair. Naam. Maintenant, si le mahram va refuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le marier avec sa fille, c'est bon, celui-là, pour ne pas dire il est kafir, astaghfirullah, il ne peut pas être kafir. Mais vraiment, celui-là, yani, sa foi est vraiment faible. Sa foi est vraiment faible. Qui le verset qui dit quoi? Le verset où Allah Ta'ala a dit dans le Coran, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم سورة الأحزاب verse 6 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont eux sur eux-mêmes subhanallah al-adhim il a plus de droits sur toi que toi tu n'en as sur toi subhanallah al-adhim ça me rappelle une chose non. Ça me rappelle lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, je vous l'ai cité une fois ou deux fois, que la femme n'avait pas le droit, non, n'avait pas le droit de dépenser de son argent à elle, sauf après consentement de son mari. Non, vous connaissez le hadith, la femme, si elle a des millions dans la banque, elle ne peut pas dépenser un euro sans demander le consentement de son mari, bien sûr, sauf si elle a un consentement général. En général, lui dit, je sais que tu as l'argent, tu as de l'argent, fais ton argent ce que tu veux. Dans ce cas, ce n'est pas la peine à chaque fois de lui dire, je vais acheter une robe, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Maintenant, comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait salat al-Eid, il terminait la khutbah de l'Eid, les femmes étaient derrière. Alors il s'avançait vers eux, car peut-être qu'elles n'ont pas bien entendu, elles sont vraiment derrière, il y a beaucoup de monde. Il s'approche vers eux et il n'y avait pas de voile entre les femmes et les hommes. Les femmes étaient derrière. Al-Muhim, il s'approchait vers eux, ensuite il, disons, yettaki'u. Comment on dit yettaki? Il se penchait sur Bilal, radiallahu ta'ala anhu, mettait sa main sur son épaule, disons, si je puis dire ça, dos et ou là, et qu'est-ce qu'il disait? Ensuite, il faisait la khutbah aux femmes, ensuite, il les exhortait qu'elles fassent la sadaqa, ce jour-là de l'Aïd. Qu'est-ce qu'elle elle commence, ce qu'ils ont sur elle, elle commence à enlever leurs boucles d'oreilles et les bracelets et à les mettre dans le vêtement du Bilal. Elle commence à enlever et à mettre. Maintenant la question. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'aucune femme ne peut dépenser de son argent sans l'avis de son mari. Alors pourquoi ici, elle a dépensé et elle n'a pas demandé l'avis de son mari? C'est le délil sur lequel certains ulémas se sont basés pour dire que la femme peut dépenser sans l'avis de son mari. On lui dit pourquoi? Il y a un hadith qui dit non. Ils vont dire oui, mais il y a un hadith qui dit oui. Voilà la preuve. Le jour de l'Aïd, elle donnait. Elle peut donner un bracelet sans l'avis de son mari. Pourquoi elle a donné alors au prophète? Donc c'est un délil qu'elle peut donner sans l'avis de son mari. Les trois ulémas qui n'avaient pas le point rouge, dites-moi comment on répond à ce délil? Comment on répond à ce délil? Si quelqu'un nous donne ce délit, nous dit non, les femmes donnaient au temps du prophète leurs bracelets, les boucles d'oreilles en or. Comment qu'elle ne peut pas donner un petit dinar ou un petit euro? Alors qu'elle donnait, car c'est aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La réponse, c'est le verset que je vais dire maintenant. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'ont sur eux-mêmes. Naam. Si ce n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé, comme a dit Ibn Qayyim, mais courant sunna, si ce n'était pas lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait demandé, elle n'aurait pas alors le droit de donner. Elle n'avait pas la permission du mari. Mais comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a plus de droits sur l'homme et sur tout le monde, sur tous les croyants, et aussi les femmes, que leur mari, khlas, naam, alors elle lui donne. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut prendre, s'il veut, il peut prendre des décisions en bas. Naam. Je donne un exemple. Le mari te dit, ne va pas au Hajj. Le prophète Aslam, il te dit, va au Hajj. Sur ce chameau, il va au Hajj. Par exemple, tu dois. Tu dis pas, non, mon mari, il m'a dit, il ne faut pas y aller. Va au Hajj. Il t'a dit d'y aller. Il ne te dira pas, bien sûr, parce que tu n'as pas de mahram ici. Mais si jamais il a dit ça, on doit lui exécuter les ordres et ne pas dire qu'il y a une autre personne à laquelle je dois obéir. Taïb, on revient maintenant à notre dars. Il a dit... Certains savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? إِنَّهُ يَجُوزُ أَن تُزَوِّجَ نَفْسَهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا فَتَقُولُ لِوَلِيِّهَا إذا خطبت ووافقت إن فلانا خطبني وأنا أريد أن أتزوج به وسأعقد النكاح لنفسي فإذا أذن لها زوجت نفسها. Certains ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une femme ne peut pas se marier sans l'avis de quoi? De son wali. Sans le consentement de son wali. Ils ont dit, nous sommes d'accord avec cela. Mais si maintenant, son wali va lui donner la permission. Elle vient lui dit, notre voisin X Abu Omar m'a demandé ma main et je voudrais me marier avec lui. Il remplit les conditions. Ils ont dit, ces ulama ont dit, si le père accepte, lui dit d'accord, j'ai accepté, alors elle peut se marier sans le wali. Alors, elle va ramener deux témoins et faire, par exemple, un mariage sans le wali. Naam. Mais Cheikh Larmo a dit, « Walakin silafu dhalik. »
Mais le plus juste, ce n'est pas cela, c'est le contraire. أنه لابد من الولي المباشر. نعم, il faut que le wali, نعم, le mubashir. Ce n'est pas seulement, يعني, il te dit va faire le aqd. Il faut que lui, il fasse le aqd. Lui. Bien sûr, s'il ne peut pas, il va donner la tutelle à un autre homme. Il va donner à son père, à lui, ou bien à son frère, par exemple, ou bien son oncle, et comme ça, ou bien leurs enfants. Mais ce n'est pas elle qui va faire le aqd. Lui, il doit donner la tutelle. Le père est loin. C'est lui le tuteur, mais il est loin. Il est dans un autre pays. Est-ce que le fait qu'il soit loin, et il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet comme autrefois, etc., et il faut 4 ou 5 ans, on va écrire une lettre pour lui demander son avis, il faut peut-être 10 mois ou une année pour que la réponse vienne. Et encore, si ma lettre va le trouver, peut-être je ne connais pas son adresse, peut-être qu'il a déménagé. Naam. Donc, la fille miskina ne va pas se marier, alors que le prétendant est là, le bon parti, il remplit les conditions. C'est comme ça, et on ne va pas préserver sa chasteté jusqu'à ce que, si jamais, Inch'Allah, que son père fascine ça, l'islam. Directement, on enlève la responsabilité au père, on la donne au plus proche des walis. Et maintenant, si la femme n'a aucun wali, ni son père, ni son grand-père, ni son fils, si elle est déjà mariée, ni son frère, ni ses oncles. Les oncles, bien sûr, du côté père, pas du côté mère. Car je vous donne la règle, regardez cette règle, apprenez cette règle. Aucune personne ne peut être le wali de la femme si entre la femme et ce wali, il y a une femme. Je répète, aucune femme ne peut avoir comme wali un homme si entre cet homme et cette femme qu'on veut marier, il y a une femme. Une femme, c'est-à-dire, par exemple, c'est la mère, hein, de cet homme. C'est Naam. De façon à ce que cet homme soit un oncle, soit Naam. Il ne faut pas qu'il y ait une femme. Je donne un exemple. La femme, si elle est déjà mariée, Naam, si elle est déjà mariée, elle n'a pas de père. Naam. Elle n'a pas de père, elle n'a pas de grand-père. Et elle veut se marier. Normalement, c'est le père. Il est mort. Le grand-père. Allah yarhamou. Ah, donc, ça maintenant. Ça passe au fils. Si elle a un fils. On lui dit, tu as un fils? Elle dit, Allah yarhamou. Ah, on lui dit, tu as le fils d'un fils? Tu as le fils d'un fils? Elle dit, oui, j'ai le fils d'un fils et j'ai le fils d'une fille. On lui dit, le fils de la fille jamais ne peut être wali. Pourquoi? Parce qu'entre toi et ce fils, il y a ta fille. Il y a ta fille. Naam. Le fils de ta fille, il y a entre toi et ce fils, il y a qui? Il y a ta fille. Il ne faut pas qu'il y ait une femme entre celle qui veut se marier et le tuteur. Mais le fils du fils est accepté. Pas le fils de Moïse. Maintenant, si une femme n'a pas d'ouali, classe, elle n'a pas d'ouali, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, c'est le mari. C'est le sultan. C'est qui le sultan? C'est le gouverneur qui l'a marié. Naam. C'est le gouverneur qui l'a marié. Ici, Cheikh Lahermou, Cheikh, a cité un hadith parce qu'il est daïf, le hadith où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu se marier avec Salama, elle avait un fils. Elle a dit à son fils, lève-toi, marie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a marié. Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil, hadith 1846, et Sunan Nasa'i, hadith 3254, il a dit ce hadith est daif, ce hadith est faible, qui dit que Salama, radiyallahu ta'ala anha, son fils qui l'a marié. Mais c'est valable. Naam, le fils marie qui marie la prétendante, à condition qu'elle n'ait pas de père ou elle n'ait pas de grand-père. Car on commence par un père. S'il n'y a pas, on va à qui? On va au fils. Naam, directement, deuxième position. Sinon, c'est les fils des fils. Sinon, on va aux frères, sinon aux oncles. Aux oncles côté père. Tayyib. Maintenant, une femme n'a pas de wali. Qu'est-ce qu'elle fait? On ne la marie pas? on va au gouverneur. C'est le gouverneur qui la marie. Naam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même s'est marié avec une femme qui s'appelle Ramla, la fille de Abi Sufyan, radiyallahu anhuma jami'an, l'une de nos mères, dont la kunya est Habiba, radiyallahu ta'ala anha, s'est mariée avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans quoi, yani, elle n'avait pas de wali, et c'est le gouverneur, le négus de l'Éthiopie, qui a marié cette femme au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il était musulman. Il était musulman, et bien sûr, il n'a fait ni salat, ni rien. Naam. Il n'a fait ni salat, ni a jugé avec l'islam. Naam. Et il est musulman. Il était musulman, alors que Ja'far lui a dit que Allah Ta'ala nous a envoyé un prophète qui dit qu'il faut faire ceci, faire cela, c'est Rahim, kada, kada, naam. N'adorer qu'Allah Ta'ala, mais celui-là, il ne pouvait pas faire, il n'a fait ni la salat ni rien, et il est mort musulman. Et le prophète Ali a fait quoi? A fait la salat sur lui, ce qui est un grand délit qu'il était musulman, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait jamais la salat sur un kafir. El Mouhim, lorsque cette femme, Habiba, radiyallahu ta'ala anha, naam, est partie vers la Habesha, vers l'Éthiopie, naam, en hijra, tellement ils avaient de problèmes dans la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: allez là-bas, il y a un gouverneur qui, inshallah ta'ala, vous n'avez pas, yani, va pas vous faire de mal là-bas et vous allez être en sécurité. Elle est partie là-bas avec son mari, Ubaydallah ibn Jahsh, et beaucoup de compagnons. Pas beaucoup, je crois 8 à peu près. 8 ou 12. Non, ils sont partis là-bas. Son mari, qui s'appelle Ubaydallah ibn Jahsh, le mari de Habiba, c'est-à-dire son nom c'est Ramla, la fille de Abi Sofiane, s'appelle comment? Ubaydullah ibn Jahsh. C'est qui d'abord ce Ubaydullah ibn Jahsh? Le prophète, alayhi salam, avait beaucoup d'épouses. Entre autres, il avait une qui s'appelait Zaynab bint Jahsh. Vous vous rappelez? Elle était auparavant mariée avec Oussama ibn Zayd, son fils adoptif. Et Allah Ta'ala a voulu que c'est seulement un fils adoptif, c'est pas, il lui a ordonné qu'il se marie avec sa femme, c'est-à-dire qu'il se marie avec Zaynab bint Jahsh, et il s'est marié avec Naam. Et pas comme disent les ennemis d'islam, que dans une tenue indécente, et il a vu son corps, et lui, alors il lui a volé sa femme, il a pris la femme de Aoudoubla, ceux qui disent cela, Naam, ce sont des kuffars, sauf un kafir peut dire cela, ou bien un musulman très 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 égaré. Naam. Nous on leur dit, c'est Allah Ta'ala qui a dit, enfin, fait descendre le Coran, il faut que tu te maries avec cette femme. Pour montrer aux gens que tu n'es que, ce n'est qu'un fils adoptif. Al-Muhim, cette femme, comment qu'elle s'appelle? Zaynab bint Jahsh. La première à avoir rejoint le prophète alayhi quand il est mort. On appelle Zaynab bint Jahsh. Et celui qui est parti avec Habiba en Éthiopie, comment qu'il s'appelle? Ubaydallah ibn Jahsh. Vous remarquez, ibn Jahsh et l'autre Zaynab bint Jahsh. Donc c'est son frère. C'est son frère. Elle avait Ubaydallah, elle avait Abdullah. Celui-là, quand il est parti avec Habiba en Éthiopie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré des gens, on lui a dit on te donne de l'argent, etc. Il est rentré dans le christianisme. Et il est sorti de l'islam. A'oudou billah, il est mort kafir. Naam. Certains en parenthèse disent que cette histoire n'est pas vraie, mais c'est l'histoire la plus connue, la plus répandue. Elle se trouve dans tous les livres. Al-Muhim. Personne, Naam, est rentré dans quoi? Dans le christianisme. Sa femme n'est plus sa femme. Habiba n'est plus sa femme. Si jamais un homme devient chrétien ou bien sort de l'islam, sa femme n'est plus sa femme. Là, c'est à partir du moment où il est rentré en islam. Elle l'attend dans la période de viduité, c'est tout. Si pendant la période de viduité, il revient, alhamdoulilah, ils n'ont pas besoin de faire un nouvel acte de mariage, mais s'il ne revient pas, elle est séparée d'elle-même. Elle n'a pas besoin de séparation, de divorce. Là, elle est séparée d'elle-même. Son mariage est annulé.
Non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu cette affaire, il a entendu que Umm Habiba était parti, masha'Allah, pour Hijra fi sabillah, et les difficultés qu'il y a là-bas, vivre chez des gens, loin de la famille, loin de l'islam. En plus de cela, son mari devient kafir et il abandonne. Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé au négus lui demander de le marier avec Habiba. Et le négus, c'était lui qui a pris la tutelle. Il a pris la tutelle de Habiba qui n'avait pas de wali. Elle est là-bas dans un autre pays. Où est le wali? Le gouverneur l'a mariée et lui a donné aussi la dot. Il l'a mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il s'est marié ici? Est-ce qu'il s'est marié avec les tentations? Il s'est marié parce que la femme était vraiment dans l'embarras. C'est pour la faire sortir des problèmes, subhanallah. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la plupart de ses mariages. La plupart de ses mariages, c'était comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit une fois que parmi toutes les femmes qu'il avait, seule une femme était quoi? Seule une femme parmi les 11, seule une femme était vierge. Seule une femme était vierge. Et parmi les 10 autres, 9 des 10 étaient quoi? Étaient déjà mariés. Naam, 9 des 10 étaient, disons, yani, mariés ou divorcés ou veuves. Subhanallah. Et Khadija radiallahu ta'ala elle-même était déjà mariée 2 fois avant son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Maymouna bintul Harith était quoi? Était veuve. Ramla, celle-là, était veuve. Son mari, kafir, chrétien, il est mort. Safiya bint Huyay était veuve. Jouairiya était veuve. Zaynab bint Jahsh, mutallaqa. Quand Allah Ta'ala lui a demandé de se marier avec elle. Naam, l'autre l'a divorcée. Hind, veuve. Zaynab bint Khuzayma, veuve. Hafsa bint Omar, veuve. Sauda bint Zam'a, veuve. Allah l'adim. Armala. Toutes, Allah l'adim, étaient veuves ou divorcées. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est marié qu'avec Aïcha, qui était vierge, la seule. Naam. C'est pour ça qu'on demande à ceux qui veulent se marier la deuxième, la troisième et la quatrième de faire un peu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de se marier avec des sœurs qui ont des problèmes. Naam. Des sœurs qui ont des enfants et qui n'ont pas trouvé avec qui se marier. Des sœurs qui n'ont pas avec quoi subvenir leurs besoins. Et comme ça. Naam. Ce n'est pas seulement tu cherches la fille qui a 16 ans, qui a 17 ans. Naam. طيب, je crois que je m'arrête ici, inshallah ta'ala. Il y a la deuxième condition maintenant. La première condition, c'est quoi? Rappelez-vous bien, c'est le wali. La deuxième condition, naam, qu'on va citer, inshallah ta'ala, le wali lui-même a besoin de conditions. C'est qui le wali? N'importe qui? Bon, c'est son père. Et son père, n'importe quel père, un alcoolique, c'est qui? Un drogué, il peut être le wali? On va voir ça, inshallah ta'ala, dans le septième dars, bi'idnillah azza wa jal. Je aqul ma tisma'un, astaghfirullah li wa lakum, in asabtu fi Allah azza wa jal, wa in akhta'tu min nafsi wa min shaytan, subhanak lahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Rendez-vous inshallah ta'ala dans 10 minutes. Mets le Coran, jazakallahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum ar-Rahman jami'an. Est-ce que vous m'entendez? نعم طيب حياكم الله تعالى تفضل ان شاء الله كورون سنة بلوكي دي بلوكي تفضل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان شاء الله تعالى او بيان سي ابن القيم كيلي او بيان سي مسلم والحمد لله نعم تفضل ان شاء الله تعالى كومون كي سابيل سيلوي لا ثابت تفضل بتات كو ثابت فو بروند لو ميكرو جو لاش لو ميكرو تفضل Tabat, est-ce que tu veux prendre le micro pour aller vite, inshallah ta'ala?
S'il y a des hommes, ils prennent le micro, ça va plus. Tafadhal, alors écris, inshallah ta'ala, on attend. Écris. Si tu n'es pas prêt, on passe à Lilia, le temps que, inshallah ta'ala, tu te prépares. Tayyib, tafadhal et Lilia.
Salam alaikum. Si vous pouvez préparer vos questions à l'avance, Inch'Allah, pour qu'on évite de perdre du temps. Il y a beaucoup de personnes dans la liste et le cher, il n'a pas beaucoup de temps. Allahu fikoum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah. Abou Merdallah, si tu pouvais poster la question, barakallahu fik.
Salam alaikum, cher. Je suis marié avec un musulman depuis 2 ans, mais mon mari n'est toujours pas accepté par mon père. De plus, par ses actes et ses propos, il crée des conflits dans mon couple. Mon mari fait des efforts depuis le début, mais aujourd'hui, il ne supporte plus la situation et a décidé de ne plus avoir de contact avec ma femme. Risque-t-il quelque chose d'avoir pris cette décision? Et comment dois-je réagir? Je tiens à vous préciser que mon père, c'est lui qui passe avant mon époux. Mais les hadiths que j'ai pu lire disent le contraire. Barakallahu fikoum, cheikh.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب j'ouvre une parenthèse pour dire à Coran et Sunna que j'ouvre une parenthèse pour dire à Coran et Sunna que le lien que j'ai mis dans la bannière Ibn Taymiyyah Jinan comme archive 2007 11 37 là, tu dois le copier et le laisser dans le fichier. Comme ça, chaque fois que tu rentres dans la tu écris dans la bannière, tu mets ce lien au lieu de mettre l'ancien adresse. Car ce lien, quand on clique dessus, il donne quoi? Il donne les salles dangereuses. Hein? Il donne les salons dangereux, sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les écrire tous dans la bannière. Mais ce site, Inch'Allah Ta'ala, à chaque fois, il vous met en quoi? En garde contre toutes les salles qui sont nouvelles, qui sont dangereuses, mais il ne pas. J'avais posé une question à la sœur. Est-ce que le père est musulman ou bien est-ce qu'il est kafir? Musulman. Non. Alhamdoulilah. Je voudrais dire que l'essentiel pour la femme, c'est elle qui doit garder de bonnes relations avec ses parents. Ce n'est pas lui. Comme l'homme. C'est lui qui doit garder de bonnes relations avec son père et sa mère et non pas sa femme à lui. Naam. C'est ça l'essentiel. Toi, Inch'Allah ta'ala, ma soeur, fais ton possible pour être yani avec ton père et ta mère, soit y aller chez eux une fois par mois, soit pendant les fêtes, soit par téléphone. Surtout que maintenant, tu peux les appeler ton père si tu veux 2 fois par jour. Naam. Et il sait que. Tu es marié, etc. Tu as des enfants, ce n'est pas facile d'y aller. Il y en a tout le temps chez lui. Donc, quant à ton mari, pardon, s'il veut ne pas y aller, qu'il n'aille pas. Ce n'est pas obligé pour lui en islam qu'il aille. Non, c'est juste pour gagner les bonnes relations. Maintenant, s'il a des problèmes, qu'il n'aille pas alors. Qu'il limite ses allées juste pour les grands événements, comme l'Aïd, etc. Non, quant à toi, inshallah ta'ala, tu n'as pas le droit de rompre avec tes parents, ne serait-ce que par téléphone, au moins. Wallahu ta'ala a'lam. Allah le prochain.
Assalamu alaikum. Excusez-moi, mais ma question n'a rien à voir avec le dars. Est-il autorisé d'appeler une fille Sania de substantif arabe Sana signifiant l'élévation, la grandeur, sachant que ce sont deux attributs d'Allah? Tahila, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Walaykoum salam wa rahmatullah. Tehillah, est-ce qu'elle veut dire ta'ala? Est-ce qu'elle veut dire ta'ala ou bien tehillah comme ça? Non, est-ce qu'elle veut dire ta'ala ou elle veut dire. Oui, quoi? Oui, ta'ala ou là oui, tehillah. Ah, oui, ça veut rien dire. C'est quand quelqu'un frappe à la porte, on lui dit qui? Il dit c'est moi. Qui c'est toi? C'est mon père, mon voisin, le boucher, le mécanicien, l'horloger, le. C'est qui toi? Non. C'est pour ça que l'islam, on ne dit pas c'est moi. On dit c'est X, on cite le nom. Ta'ala. Non. En arabe, il n'y a pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle Ta'ala, ni une personne qui s'appelle Ta'ala, mais il y a le verbe. Quand on dit à quelqu'un Ta'ala, ça veut dire viens. Quand on demande à quelqu'un Ta'ala, ça veut dire quoi? Ça veut dire viens. Naam. C'est pour cela, ça m'étonnerait que on puisse appeler quelqu'un Ta'ala. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut du ulou. Ulou. Naam. C'est un attribut de l'essence. Naam. C'est un attribut de l'essence et pas un attribut de l'acte. Comme l'istiwa, l'élevation, c'est un attribut de l'acte. Donc, je disais, même d'habitude, ça ne se dit pas, parce que c'est un verbe, ta'ala. Il faut voir le sens des mots. Quant à sana, je n'ai jamais lu que ça, c'était haram. Subhanahu wa ta'ala, na'am. Quant à sana, je n'ai jamais vu que c'était haram. Il y a même beaucoup, beaucoup qui appellent leur fille comme ça, sana. Na'am. Il y a beaucoup qui appellent leur fille sana. Je n'ai jamais lu que c'était haram d'appeler une fille sana. Je voudrais dire, ça c'est une petite, c'est tout. Je voudrais dire que yani, celui qui aime vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il choisisse un nom de ses épouses ou de ses filles. Naam. Pourquoi je ne choisis pas Safiya et Hafsa, naam, et Khadija sa femme, et Ramla, naam, et Hind? Pourquoi je choisis ça? Je ne choisis pas les beaux prénoms des femmes, et Aïcha, les beaux prénoms des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vais aller loin dans chercher yani, des prénoms qui, des fois, n'ont aucun sens. Moi, maintenant, je ne parle pas de Umrisa 83, je parle en général. Je dis, certains sont complexés. Certains, etc., sont complexés. Naam, je m'appelle Khadija, je suis complexé devant le blanc et la blonde, le black lean. Je suis complexé. Moi, je vais l'appeler Khadija, suis-moi. Naam, Ramla, ça se dit pas, je suis complexé. Alors, je vais appeler avec des noms. Qui, yani, je peux me défendre et dire qu'il y a aussi des kuffars qui s'appellent comme ça. Cela, Allah yisamahum. Cela, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui leur pardonne. Tayyib, on passe. Quant à Sana, j'ai dit, c'est injoui. Ta'ala, je n'ai jamais entendu un prénom pareil et je ne crois pas que cela soit permis. D'ailleurs, c'est un verbe et ce n'est pas un mot. Naam. Inch'Allah ta'ala, le prochain. Oumaïssa, vous me donnez au sujet de Roté. Naam, inshallah ta'ala, je vais te le donner, bi'idnillahi, subhanahu wa ta'ala, le temps que les autres lisent la prochaine question.
Une sœur a entendu dire que cela est où toutes les sœurs du groupe chantent ensemble de sorte à ce que les hommes ne distinguent pas chacune des voix. Qu'en est-il? Barakallahu fikoum. Je relis la question, inshallah. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Pour une walima, nous voulons prendre un groupe d'anachides femmes. Mais nous craignons que, depuis la salle des hommes, nous entendons les sœurs. Une sœur a entendu dire que cela était permis dans la mesure où toutes les sœurs du groupe chantent ensemble, de sorte à ce que les hommes ne distinguent pas chacune. Qu'en est-il? Barakallahu fikoum.
Voilà le hadith. Je ne sais pas si tu as l'arabe. Le prophète, alayhi sallam, d'après Abdullah ibn Omar, a dit Tajashya'a rajulun 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Un homme a roté en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Kuffa 'anna jusha'ak. Yani, arrête, yani, ton ro. Arrête ton ro. Fa inna aktharahum shab'an fi dunya atwaluhum.
Plus les gens mangent dans cette vie, plus ils auront faim le jour. Donc, il n'a pas aimé l'euro. Il lui a dit, arrête ce euro. Et le hadith, l'Albani a dit Sahih dans Sahih Targhib, numéro 2137. Et quant à l'autre question, où c'est dit que pour une walima, nous voulons prendre un groupe d'anachites, femmes. Nous craignons que depuis les salles des hommes, nous entendons des sœurs. Naam, en principe, les femmes, naam, doivent se préserver de ne pas faire entendre les hommes, même si c'est en groupe. Car la voix de la femme, si on ne reconnaît pas c'est qui, mais c'est toujours la fitna. C'est toujours une voix qui fait de la fitna par rapport à l'homme. Surtout que maintenant, elle est en train de chanter ou chantonner. Elle fera le maximum pour avoir la plus belle voix et la voix la plus douce. Donc les hommes, s'ils entendront cette chose, ce sera de la fitna. C'est pour ça que si elles font des anachides, il faut qu'elles ne lèvent pas la voix de façon à ce que les hommes l'entendent ou bien qu'ils choisissent yani, une salle vraiment hermétique, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment fermés pour que les hommes ne puissent pas entendre ce qui se passe dehors, comme les salles se trouvent dans les sous-sols. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadla, inshallah, le prochain.
Une sœur se trouve dans une situation assez difficile. Elle s'est mariée avec son tuteur que son père avait désigné pour elle de son vivant. Puis quelques semaines après celui-ci, décéda, rahimallah. Et par la suite, elle le garda comme tuteur, puis se maria avec lui en tant que coépouse, sans que la première soit au courant. Entre parenthèses, il compte lui annoncer plus tard à sa première femme. De ce fait, il ne peut pas passer la nuit ni plusieurs jours avec elle. Le problème est 2 semaines, et ne l'a vu que quelques heures en 2 semaines. À raison de tous les 3 jours à peu près. La sœur vit dans cette situation très difficilement et a fait part de sa tristesse aux frères et de ceux qu'elle attend de son mari, d'avoir une vraie vie de sœur mariée, c'est-à-dire vivre avec son mari et ne pas le voir vite fait. Et le frère lui répond qu'il ne peut pas faire autrement car il est imam, aide les gens, donne des cours et cela aux dépens de la sœur, et qu'il faut qu'elle soit patiente dessus. Alors que dès le départ, elle avait dit au frère qu'elle pouvait patienter par rapport au fait que sa femme ne soit pas au courant, mais que le frère lui donne son haq au niveau du temps, alors que la sœur est presque toujours toute seule, et ne passe que quelques heures par semaine avec le frère. La sœur a aussi des enfants d'un précédent mariage, et de ce fait des responsabilités qu'elle endosse seule. Du frère, est-elle normale envers la sœur et que pouvez-vous lui conseiller?
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Écrit numéro 1. Taïb, je ne voyais pas le numéro 1. Maintenant, je vois Inch'Allah ta'ala. Naam. Attendez une seconde. Je disais que je vais lui répondre par en 2 phrases, c'est tout. 2 phrases, c'est tout, ça suffit. Naam. Toute personne qui sait yani, disons la situation de l'autre conjoint. Naam. Toute femme qui sait, par exemple, que son mari a tel ou tel, par exemple, défaut. Comme ici, le défaut, c'est qu'il ne peut pas rester avec elle, que très rarement, parce qu'il est imam, etc. Ou un homme voit dans sa femme que, par exemple, elle a des taches, donc les taches blanches dans le corps, etc. Hein? Il a accepté
Ensuite, quand il se marie, là, il dit, non, je ne savais pas ceci, cela. Et elle dit, je ne savais pas qu'il allait rester avec les gens, etc. Tous, en général, la règle dit, quiconque rentre dans le mari avec clairvoyance, il sait, et il rentre après. S'il regrette, il peut pas se séparer. Pourquoi? Parce que à l'avance, tu choisis. Naam. Maintenant, s'il ne savait pas, elle croyait que il allait, d'accord, il n'allait pas dire à sa femme, mais il croyait que il allait rester une nuit ici, une nuit là-bas. Naam. Dans ce cas, elle peut le forcer, naam, à ce qu'il soit intègre, naam, à ce qu'il soit yani, équitable, sinon lui dit on se sépare. Sinon, je suis prête à te donner, te rendre la dot et on se sépare. Parce que tu ne m'avais pas dit que tu ne pouvais pas me voir que rarement. Je savais que tu n'allais pas dire ça à ta femme, mais je croyais que quand même, tu pouvais y aller. Je ne sais pas quoi faire, mais venir. Mais maintenant que tu ne viens pas du tout, je te vois que rarement, je ne vois pas pourquoi je suis marié sans. Alors je préfère me marier avec quelqu'un qui soit avec moi. Naam. Celui-là, il fait une faute grave. Celui-là, ce frère, s'il n'avait pas dit à la femme, je dis bien s'il n'avait pas dit, moi je ne sais pas, mais s'il lui a pas dit et il lui a fait croire qu'il irait souvent chez elle, pas souvent, elle nuit par nuit, et que, naam, il lui a pas dit cette chose, et que maintenant il fait cette chose, il fait un grand péché. Chaque fois, à chaque nuit qu'il rate avec elle, il a fait un grand péché. Naam, je lui demande, ou bien il essaye de réparer en faisant la tauba, ou bien il la libère vite. Elle lui dit, voilà, tu es divorcé. Naam, tu es divorcé. Ou alors, j'annule mon mariage. J'annule mon mariage. Et alhamdoulillah, en période de viduité, et elle se remarie avec un autre. Naam, car il fait un grand péché. Le jour du jugement dernier, il viendra avec sa moitié penchée, subhanallah, la moitié penchée et la moitié debout. Debout, c'est ce qu'il a fait de bien avec sa femme, et penchée, ce qu'il a fait de mal avec la deuxième. Subhanallah. Naam. Ta'ala prochain.
Salam alaykoum. Lorsque l'on a une demande, salam alaykoum. Lorsqu'on a une demande pour une muqabala, on effectue salat istikhara pour consulter Allah Azzawajal. De quelle manière doit-on l'effectuer? Yani, doit-on le dire lorsqu'il faut évoquer l'affaire dans la vocation? Doit-on citer le nom du frère ou autre? Barakallahu fikoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. La prière de la consultation est une prière qu'aucun croyant ne néglige. Celui qui va faire un commerce, va changer de pays, ou bien va se marier, ou bien, je sais pas, et ne fait pas la prière de la consultation, c'est que vraiment, yani, il risque beaucoup de choses. Naam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis sûr de moi-même. Je n'ai pas besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala me choisisse. Astaghfirullah. Ce n'est pas la peine qu'Allah ta'ala me choisisse. Je me connais. Quand je choisis quelque chose, toujours, je suis gagnant. Astaghfirullah. Naam. Donc, le vrai croyant, il fait salat al-istikhara. Quand est-ce? Il choisit n'importe quel moment. De préférence, pas pendant le coucher du soleil ni le lever du soleil, de préférence, sauf si c'est un besoin. Cheikh Al-Othaymine a dit, c'est un besoin, mais qu'est-ce mouchkil? C'est très proche face aujourd'hui, je n'ai que salat al-maghrib. Al-Mouhim, deux rak'at nafila. Nafila, ce n'est pas fard, pour que ça soit une nafila. Quand je termine, il faut lire le doua exactement comme il est, sans ajouter, sans retrancher. Celui qui ne connaît pas le doigt, au moins qu'il prenne le livre devant lui. Comme par exemple la citadelle du musulman. Le doigt se trouve à l'intérieur. Naam. exactement comme il y a à l'intérieur. Certains qu'ils pouvaient lever les mains pour faire cette doua. Je dis, Allahu Ta'ala a'lam. L'essentiel, c'est de dire ce doua. Naam. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi'qudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allam al-ghuyub. Allahumma in kana fi hadha al-amr, et elle le cite. Allahumma in kana fi hadha al-amr, elle dit par exemple zawaji ma'a al-khatib hadha, mon mariage avec ce prétendant qui est hier. Mon mariage avec X, et elle le cite par prénom. Mon mariage avec celui qui a parlé à mon frère avant-hier, et comme ça. Et elle termine le doigt. Ensuite, elle dit wa in kana fi hadha al-amr, le mariage avec X, charron fi dini ou kada, elle termine doua al-istikhara. Voilà comment on fait salat al-istikhara bi-idhnillah azza wa jal. Et ce n'est pas la peine qu'elle attende qu'elle voie quelque chose dans le songe. Il lui suffit de voir son cœur côté a-t-il penché. Et est-ce que Allah Ta'ala lui a facilité les choses ou bien il y a maintenant des entraves, il y a des problèmes qui ont surgi. Subhanallah, des problèmes ont surgi et le frère n'est plus revenu, il est parti, il est ceci, j'ai découvert qu'il faisait cette chose, et tu arrêtes. Ça, c'est l'istikhara. Ou bien, alhamdoulilah, ça commence à marcher vite et c'est bientôt le khutbah, c'est le khitbah, etc. etc. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal, inshallah, le prochain, il reste une demi-heure.
Assalamu alaikum. Pouvez-vous donner la signification du nom d'Allah, Ash-Shakur, parmi les 99 noms d'Allah? Certains savants disent que Rachid et Majid ne sont pas Sahih, donc 97. Quels sont les deux autres Sahih pour compléter 99?
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل في صوت إن شاء الله تعالى؟ الحمد لله. حول ولا قوة إلا بالله. Une seconde, j'ai quelque chose ici. نعم. Quelque chose ici, إن شاء الله تعالى. Une seconde. طيب. Bon. Je n'ai pas trouvé la chose que je cherchais, mais ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Al-Shakur, ça c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après ce que je sais, c'est celui qui exagère dans le remerciement. Naam. Tu fais seulement une petite chose, Allah subhanahu wa ta'ala te donne, masha'Allah, masha'Allah. Et regarde, nous, qu'est-ce qu'on fait? Et Allah ta'ala nous donne le paradis. On ne fait que des choses comme ça dans la vie, et Allah ta'ala le manger, nous donne les enfants, nous donne la santé, nous donne. Naam. Et ensuite, elle a dit, parmi les 99 ans, certains disent que Rachid, ça, le Rachid, c'est pas le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Majid, je ne suis pas sûr. Naam. Majid, je ne suis pas sûr. Naam. Mais Rachid, c'est sûrement, c'est sûr, je suis sûr que ce n'est pas un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour Majid, laissez-moi vérifier une seconde. Je vois, je trouve maintenant un fichier ici. J'en vais dans la Aqida. Si je le trouve, Inch'Allah Ta'ala, il contient le Majid. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, voir à l'intérieur ce qu'il existe de Majid. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Ici, il dit, ici, il dit, écoutez, Al-Majd, Tifatun Zatiyal Azzawajal, Min Ismihi Al-Majid, Sabit bi Kitab Sunnah, Walis Al-Majid, Wa Wal Ghafur Wadud, Dur Arsh Al-Majid, Subhanallah Al-Azim, comment on a oublié ça? Al-Majid, c'est l'un des noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Majd n'est pas son nom. نعم من مجيد سي لان دي نو الله سبحانه عز وجل autre chose il dit ils sont 97 quels sont deux autres pour compléter 99 je dis à cette personne, inshallah ta'ala, que Allah ta'ala n'a pas son nom, n'a pas son, ni 99. Non, on n'a pas 99, mais on a beaucoup plus. Mais on a beaucoup plus, personne ne les connaît. Non, il y a beaucoup d'autres, comme le Moussa'ir par exemple, et d'autres qui ne sont pas connus, comme a dit, Allah, comme a dit le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Dans la doua hadith où il dit, Allahumma inni as'aluka bi... Non, c'est pas ça là. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, tabihi nafsak, ou an fi kitabik. أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك سالو تيموا استأثرت به في علم الغيب عندك الله تعالى je te demande pas les noms que seul toi tu connais c'est un délit que Allah تعالى a d'autres noms qu'on connaît pas c'est pour ça que يعني الله تعالى n'a pas seulement 99 c'est la première la deuxième chose les 99 qu'il a c'est-à-dire si quelqu'un les connaît les 99 et les applique, il va rentrer au paradis. C'est-à-dire parmi tous les noms que Allah Ta'ala a, des centaines ou des milliers, si quelqu'un connaît, il y a 99, si quelqu'un connaît ces 99 et les applique, il va aller au paradis. Mais ces 99, jusqu'à présent, aucun alim n'a pu les connaître parce qu'il n'y a pas un hadith sahih qui les a montrés. C'est pour ça que vous allez trouver des feuilles comme ça, écrit les noms d'Allah. Et chez une autre feuille, tu vas trouver que les noms ont changé. Ici, il y a le Rafour, là-bas, il y a le Rahman, ici, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi? Parce que chacun s'est basé sur des choses comme ça, faibles, mais il n'y a pas un hadith sahih qui les a montrés spécifiquement. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal, inshallah, le prochain.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa shaykh. Barakallahu fikoum pour le temps que vous nous accordez. Je n'ai pas de mahram ni de tuteur. Si je fais une muqabala avec un frère en vue d'un mariage, qui doit être présent lors de cette muqabala? Et qui puis-je prendre comme tuteur s'il n'y a pas d'imam qui accepte près de chez moi? Barakallahu fikoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand une femme n'a ni mahram ni tuteur, comme par exemple celle qui se reconvertit, ses parents tous sont kuffar. Naam, elle commence par essayer de voir, comme on dit, un centre islamique, quelque chose d'islamique là-bas qui représente les musulmans dans son pays. Dans chaque pays de kuffar, il y a un endroit où on représente les musulmans. Naam, on représente les musulmans. Elle va là-bas, elle dit, je veux marier s'il y a quelqu'un qui peut yani, me représenter. Sinon, elle voit un imam. Sinon, elle voit un imam, l'imam du quartier, s'il peut yani, la représenter. Sinon, là, elle n'a plus trouvé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit une sœur. Elle lui demande de demander à son mari qu'il l'aide pour qu'elle la fasse, pour qu'elle fasse la muqabala, par exemple, chez eux. Et le frère Ada de la sœur va appeler le frère et il va le faire rentrer pour qu'il la voie comme ça en groupe. Mais il ne reste pas seul en tête à tête avec. Ça n'a rien à voir le minhaj. Le minhaj ici, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme le père. Non, c'est comme le père. Le père, des fois, il fait toutes les innovations du monde. L'essentiel, c'est quoi? C'est que je ne sois pas en tête à tête avec qui? Avec le prétendant. Non, il y a quelqu'un qui me représente de mon côté. Non. Fadlan, inshallah ta'ala, le prochain.
Assalamu alaikum, Shir. La femme peut-elle porter le nom de son mari après le mariage religieux? Barakallahu fikoum.
Elle a dit, et si un frère ou un mari d'une sœur, il faut que sa sœur ou sa femme soit présente. Naam, pour qu'elle ne soit pas seulement avec deux hommes. Pour pas qu'elle soit seulement avec deux hommes. Et l'autre femme, elle n'est pas obligée yani, d'être en face de l'autre. Elle peut être un peu de côté. Elle peut yani, être avec le niqab, le sitar, etc. Naam, l'essentiel, c'est que ne soit pas seule. Non. La femme n'a pas le droit de prendre le nom de son mari même après le mariage religieux. Si elle le prend, c'est juste pour les papiers, etc. Elle n'a pas d'autre solution. Mais en islam, elle garde le nom de son père. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Elle suit le père dans l'appartenance et les noms. Naam. Elle s'appelle, par exemple, Khadija, la fille de X, son père, et non pas yani, madame avec le nom de son mari. Non. Mais c'est madame avec le nom de son père, à elle. Elle peut écrire épouse de X. Épouse de X, mais elle ne prend pas son nom. Et maintenant, si c'est obligé dans les papiers, elle ne peut rien faire. Naam. Tfadla, inshallah ta'ala, le prochain.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد بركاته حياك الله je voudrais en tout cas te remercier beaucoup pour tes دروس ben justement je voudrais bien enfin je ne sais pas si c'est déjà un sujet que tu as déjà évoqué mais je voudrais quand même te poser la question c'est à propos de la polygamie parce que je sais bien que le prophète Mohammed sallallahu Il a dit à Allah Ta'ala, il dit dans le Coran que concernant comment dire un homme, il peut avoir jusque quatre femmes. Mais ce que je voudrais bien savoir, c'est que vu qu'à notre époque, malheureusement, y a beaucoup, comment dire, je connais pour ma part une sœur qui m'a dit une fois que si, comment dire, un jour elle voulait se marier, ce serait à condition que son mari ne soit pas polygame. Mais je sais qu'il y a beaucoup des frères et sœurs qui sont dans des cas comme ça. Alors, j'aimerais bien savoir si, puisque la polygamie fait partie de la sunna, Est-ce que c'est un péché de dire moi je n'accepte pas la polygamie? Est-ce que c'est haram de dire cela ou est-ce que c'est autorisé? C'est ce que je voulais savoir. Barakallahu fik, à toi le micro. Salam alaikum.
Wa'alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Ismaël. En fait, cela dépend de ce qu'elle veut dire par je n'accepte pas la. Si elle veut dire par là, je n'accepte pas ce jugement d'Allah Ta'ala fait de sorte que l'on peut se marier avec quatre femmes. Et comme ça, elle est devenue kafira. Si elle meurt, elle ne sortira plus jamais de Jahannam. Naam. Mais si elle veut dire, naam, si elle veut dire, je sais que la polygamie, c'est un jugement d'Allah Ta'ala que personne ne peut changer dans le Coran. Mais moi, je voudrais demander à mon mari, Naam, qu'il ne se marie pas une deuxième, parce que je suis très jalouse, et ceci et cela. Naam. Et non pas parce que je n'accepte pas ce jugement. Naam. Si elle dit je n'accepte pas ce jugement, c'est grave. Mais elle dit que, par exemple, moi je suis très jalouse et j'aimerais, par exemple, ou je n'aimerais pas, par exemple, que je sois, que mon mari soit yani, comment on dit ça, yani mushterk, qu'une autre s'associe à lui, par exemple, car je suis très jalouse. Naam. Dans ce cas, certainement, on même permis, comme Cheikh Ibn Othaymin l'a que qu'elle peut faire ça comme condition. Certains ulama ont même permis qu'elle pouvait faire ça comme condition de mariage. Et d'autres, bien sûr, n'ont pas permis. Je vous ai donné l'avis de Cheikh Ibn Othaymin l'a il dit il lui est permis. Dans la condition de mariage, de dire que je me marie avec toi à condition que yani, tu ne te maries pas avec moi, pardon, avec moi, avec une autre. Sauf bien sûr, si après elle veut se désister, se rétracter et lui permettre, ça c'est une autre chose. Ça c'est une autre chose. Donc la polygamie, mon frère Ismaël, c'est pour le bien de la société. Des fois, il y a des femmes qui ne se marient pas. Des fois, il y a des guerres et beaucoup d'hommes qui meurent. Et si, Naam, l'homme ne se mariait qu'avec une seule femme, alors quoi? Alors, Naam, dans les pays de Kufa, n'accepte pas. Alors, beaucoup de femmes restaient sans mariage. Naam, le kafir n'accepte pas la polygamie. Tu sais pourquoi? Parce que il fait ce que fait l'homme avec la femme, avec 100 femmes et 200 femmes dans sa vie. Naam, chaque soir, il a une femme. Si ce n'est pas ça la polygamie, la plus, ah, Allah, il préfère la zina. La polygamie, c'est beaucoup plus propre. Le kafir, il ne se marie qu'avec une femme, il ne se marie qu'avec une femme, mais il a deux ou trois autres concubines en fi nafs al-waqt a'oudou billah. Fi nafs al-waqt a'oudou billah. Naam. Et quand une femme, masha'Allah, quelqu'un se marie avec elle, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement pour ses tentations, mais il se marie avec elle pour la faire sortir du pétrin dans lequel elle est, le gouffre où elle est, le tunnel où elle est, il aura beaucoup de récompenses. Naam, il aura beaucoup de récompenses. À chaque fois qu'il s'approche d'elle pour faire avec elle ce que fait l'homme, on lui marquera des hasanat, masha'Allah. Car il a fait cette chose, c'est billah. Naam. Tfadlal, inshallah ta'ala, Abu Abdurrahman Firansi. Naam. Qu'est-ce qu'elle dit? Naam. Coran et Sunna. De préférence, on est dans l'akha. De préférence, hein, pour ne pas s'attirer des problèmes, inshallah. Tayyib. Tafadlal, je te donne le micro.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans une majorité de situations, on ne prononce pas à voix haute l'intention. La basmala fait-elle partie de l'intention? Entre parenthèses, où peut-on la prononcer à voix audible? Barakallahu fik.
Je n'ai pas compris. Alaykoum salam wa barakatuh. Je n'ai pas compris de la basmala. Abu Abdullah, tu parles de la basmala? Où exactement? Où? Dans le wudu, où exactement tu parles? Fatiha? Je ne sais pas d'où tu parles. J'attends, inchallah, ta réponse. Dans le wudu, par exemple, naam. C'est comme tu as dit. C'est-à-dire, d'une voix, à voix audible. Audible, c'est-à-dire, nous, on se fait entendre. On dit bismillah, comme ça. Je me fais entendre entre, si je veux, entre mes lèvres. Le mohim, mes lèvres, naam, mes lèvres doivent se remuer, doivent bouger. Si elles ne bougent pas mes lèvres, ça veut dire que j'ai dit ça dans mon cœur. Mais si j'ai bougé mes lèvres, j'ai dit bismillah, khalas, ça me suffit. Que les gens m'entendent ou pas, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que mes lèvres ont bougé quand j'ai dit bismillah. Naam. Même quelqu'un peut être proche de moi, peut-être il va m'entendre, peut-être il ne va pas m'entendre. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de le dire à voix basse en bougeant les lèvres. Bi'idhnillahi azza wa jal. Tafadla.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, shir. Afwan, ma question n'a rien à voir avec le cours. Actuellement, j'enseigne la langue arabe et l'islam dans une petite école d'arabe, dans le sud de la France. Alhamdulillah, les enfants avancent à une vitesse, mashallah. Les parents d'élèves sont très contents. Cependant, il y a une personne qui commence à mettre de la fitna et met en garde les parents contre moi. Elle leur déconseille de me confier entre parenthèses 19 ans et de ma aqida, croyance. Elle dit du mal de moi dès qu'elle en a l'occasion dans une assemblée. J'attends la suite de la question, Inch'Allah. Inch'Allah, Oumou Hadeifa, postez la Coran Sunnah, se chargera de l'écrire. Oui. C'est parce que votre question, elle est trop longue.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tayyib, j'ai compris le contexte, c'est ça l'essentiel. Afoun, j'ai compris le contexte. Vous m'entendez? Naam. Alhamdulillah. Oumou Hadeifa, je voudrais te dire que Naam, je voudrais te dire que cette chose est très normale. Naam. Et c'est un des dalils que tu es dans le vrai chemin. Si tu étais dans le faux, tu n'aurais pas eu de fitna. Naam. Mais étant dans le vrai chemin, il faut que Allah subhanahu wa ta'ala te teste et t'éprouve. Est-ce que tu es véridique ou bien, maintenant qu'on t'a fait une petite fitna, tu vas t'effacer et laisser les autres Yani, continue à ta place, je ne sais pas quoi. Naam. Alors, rappelle-toi qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin. Et ainsi, on a fait à chaque, mais ça va très loin. Ainsi, on a fait à chaque messager ou bien à chaque prophète aduwwan, un ennemi des criminels.
Donc, même tous les prophètes avaient un ennemi. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran, au point de faire courir des rumeurs, Allah Musta'an. Khair Inch'Allah. Naam. Et dans un autre verset, Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضِ بَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Et ainsi, on a fait de vous, hein, certains contre certains, des fitna. Chaque personne, Allah Ta'ala lui donne une fitna avec d'autres personnes. أَتَصْبِرُونَ. Est-ce que vous allez endurer? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala est clairvoyant. Il voit tout. Al-Muhim. Et le prophète Al-Islam a dit que celui qui fréquente les musulmans et il supporte leur mal est mieux que celui qui ne fréquente pas et qui ne supporte pas leur mal. Mais Hudhayfa, je veux terminer en disant, en donnant cette conclusion, Hudhayfa, Alhamdulillah Ta'ala, toi, tu es libre. C'est-à-dire tu es libre, c'est-à-dire tu vois entre les deux. Si tu peux endurer et continuer et supporter, alors ajrouki ala Allah, tu as beaucoup de récompenses demain. Mais si c'est plus fort que toi, ça commence à aller très loin, ah vraiment, yani, ça a dépassé les limites, on va te mettre dans les journaux, dans Kada ou là, la prison ou là, la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Tu te retires, hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Et tu fais d'abord l'istikhara, et tu vois ton cœur où il a penché, de quel côté il a penché, incha'Allah ta'ala. تفضل إن شاء الله تعالى نعم dans 10 minutes c'est terminé. تفضل إن شاء الله تعالى le prochain.
السلام عليكم ورحمة الله. La question n'est pas pour moi et ne concerne pas le sujet du mariage. Puis-je poser Inch'Allah? J'attends votre accord barakallahu fikum. Cheikh, est-ce qu'elle peut poser la question Inch'Allah? Non, non, non. N'ajou le haq. Vous pouvez poser la question Inch'Allah. Barakallahu fikum, Cheikh. Un ami à mon mari est électricien. Une mosquée lui a demandé d'effectuer des travaux. Mais le problème est que cette mosquée est connue pour sa da'wa tablir. Est-ce que le frère peut effectuer ses travaux pour cette mosquée sachant qu'il prêche dans une voie égarée? Qu'Allah nous en préserve. Amin. Pour finir, cher, puis-je donner votre adresse mail à des sœurs qui n'ont pas le paltalk? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve ainsi que les vôtres. Amin.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wallahi, ce dont je suis convaincu, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que c'est éviter, c'est mieux. Naam, c'est une secte égarée, inshallah. Naam, égarée et qui égare. Naam, et en leur construisant cette mosquée, on va les aider. On va les aider pour qu'ils prêchent dans le faux. Naam, ils ont du shirk, ils ont de grands bid'a dans la aqidah. Et de grands bid'a dans les adorations et du shirk dans la aqida. Si cette personne, par ascétisme, s'éloigner de cette chose, Allah Ta'ala, lui, le récompensera dans cette vie, dans l'au-delà, Inch'Allah Ta'ala. Quant à ce qu'a dit Coran Sunnah, naam, c'est ce que lui a dit mon mari, si on veut. Une confirmation, naam. Inch'Allah Ta'ala, je dis c'est mon avis. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Quant à donner l'adresse aux sœurs qui n'ont pas de paltok, je préfère pas donner. Ne pas donner mon adresse, parce qu'à quoi ça sert qu'elles m'écrivent et je ne réponds pas, tellement j'ai de courriers. Naam. À quoi ça sert? Elles vont m'écrire et je vais répondre dans 3 ou 4 mois. Naam. Et certaines sœurs sont étonnées, je leur réponds le premier jour, des fois à la même minute. Naam. Des fois je rentre dans mon courrier, je vois une lettre qui vient d'arriver, je l'ouvre par curiosité, je trouve qu'elle mérite la réponse vite. Je lui rends comme ça directement. Certaines croient que, alors je réponds vite. Elles disent, Masha'Allah, votre réponse est rapide. Beaucoup me disent comme ça. Elles ne savent pas que 2 ou 3 mois. Je préfère qu'elles lui donnent le téléphone. Tous les jours, tous les après-midi, entre 13h30 chez vous et 14h30, sauf le dimanche. Vous savez que le dimanche, j'ai une assise spécialement avec les saints. Donc, sauf le dimanche où vous ne pouvez pas me contacter, je suis dans une assise, Inch'Allah Ta'ala. Tous les autres jours, vous avez, Inch'Allah Ta'ala, entre 13h30 chez vous et 14h30 chez vous, c'est-à-dire
15h30 chez moi et 16h chez moi, Inch'Allah ta'ala. Tfadl, Inch'Allah ta'ala, il reste deux ou trois questions. Tfadl.
Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Vous avez parlé de l'acte Mulku el-Yamin avec une esclave. Mais est-ce que celle-ci donne son accord pour cet acte ou son maître peut l'obliger? Une esclave qui se convertit reste-t-elle esclave?
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour le frère qui a écrit. Pour le frère qui a écrit, il a dit que les sœurs de lui ne vont pas être contentes. S'il parle d'eux parce que je n'ai pas donné mon adresse, je dirais c'est le contraire. Je préfère que quelqu'un me donne son numéro de téléphone plutôt que l'adresse. Numéro de téléphone, naam, ça me permet, alhamdoulilah, de ne pas écrire pour les assises. Naam, pour l'assise, c'est autre chose. Je parle pour le téléphone. Le téléphone, ça, c'est plus vite et ça explique mieux. Naam, ça tu dis, voilà, là. Moi, c'est plus facile. Alhamdoulilah, au lieu que je clique sur, ensuite je donne les salam alaykoum, ça se termine. Téléphone, ça s'arrête. Là, Inch'Allah ta'ala, tu crois, alhamdoulilah. C'est pour ça que je demande à ceux qui me parlent au téléphone de mettre dans leur tête qu'il y a beaucoup d'autres qui attendent. Beaucoup, beaucoup d'autres qui attendent. Mais dans ta tête, que de parler seulement de ce qui a trait avec le sujet. Naam, il est du bon comportement d'abord de se présenter. Salam alaikum. Naam, je suis une sœur de, par exemple, disons, naam, ou bien je suis celle qui a le pseudo qui date dans le passeport. Si c'est quelque chose d'anonyme, elle laisse anonyme. Mon affaire, c'est ceci, cela. Alhamdulillah. Tayyib. Quant à pour les assises des sœurs de Marseille, s'il y a d'autres sœurs dans d'autres villes qui ont les mêmes moyens qu'ont les sœurs de Marseille, elles ont l'appartement, elles ont les baffles, elles ont des choses comme ça qu'ils peuvent entendre dans toutes les chambres, elles sont jusqu'à 50, 60 dans un appartement, qu'elles fassent ça, je suis prêt à leur faire aussi, que ce soit à Lyon ou là, que ce soit à Nancy ou là, je ne sais pas où. Non, mais pour les frères aussi, les frères on devait faire. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Les frères qui peuvent faire la da'wa en ramenant des gens chez eux. Ils ramènent des gens chez eux et ils ouvrent le paltok et ils écoutent, ils leur disent écoutez le dars et posez les questions en direct. Naam, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères, pardon, si tu fais ça avec eux, tu auras beaucoup de hajj demain quand tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et les sœurs de Marseille, mashallah, elles ont ramené beaucoup de sœurs qui quoi? Qui allaient vers le centre des Ahbash et des Tablir. Alhamdoulilah, ils les ont ramenés, ils sont là, en train d'écouter, de poser des questions. Masha'Allah, alayhi. Taïb, c'était quoi la question? Je ne sais pas s'il y a une question ici. Naam, l'esclave, son maître. Je l'ai dit plusieurs fois, je le répète. L'esclave, par rapport au maître, c'est comme un objet. J'ai dit tout à l'heure, le frigo et la voiture et le téléviseur, c'est un objet. Il peut la vendre sans son avis, la marier sans son avis. Et s'il peut se marier avec, pardon, s'il peut la marier sans son avis, ne voyez-vous pas qu'il peut lui-même l'épouser sans son avis? Subhanallah, c'est très clair. Si moi, j'ai une esclave, je peux la marier sans son avis. Est-ce que je ne peux pas alors me marier moi avec elle sans son avis? Subhanallah, donc je peux. Et est-ce que elle a dit, est-ce que une esclave qui se reconvertit, naam, devient musulmane? Non, la reconversion ne la rend pas musulmane. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ Affranchissez un esclave croyant. Affranchissez un esclave croyant. Donc, même l'esclave peut être croyant. Mais si on frappe un esclave, il devient quoi? Il devient automatiquement musulman. Il devient automatiquement affranchi. Naam. Il est 1h du matin chez moi. J'aurais voulu vous dire, si elle ne veut pas de rapport, elle ne veut pas avoir des rapports avec lui. Naam. Si il sent qu'elle ne veut pas avoir de rapport avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il la prend par la main, naam, et il va avec elle au marché. Il va au souk et il dit, qu'est-ce qui achète cet esclave de moi? Hein, qu'est-ce qui achète cet esclave? Il va lui dire 100 euros, les 150, 200, et comme ça, et il la vend. Et il la vend, bi'idhnillah ta'ala. Naam, quand il est hier, j'ai parlé hier des frères kuwaitiens qui cherchaient des sœurs. Qui cherchaient des sœurs. Peut-être tes frères diront, pourquoi? Yani, c'est seulement pour les sœurs, pourquoi pas pour les frères? Je dis aux frères très vite, inshallah ta'ala, tu as la dot d'une kuwaitienne, je peux inshallah ta'ala t'aider. Sachant que la base de la dot kuwaitienne, c'est 15 000 euros. 15 000 euros, c'est la base, il n'y a pas moins. C'est interdit chez eux à une kuwaitienne de se marier avec yani, moins de 15 000 euros. Si inshallah ta'ala, il y a un frère qui a 15 000 euros seulement pour la dot. Non, je ne parle pas de la maison et de la voiture et des domestiques. Si ici au Koweït, une Koweïtienne n'a pas deux ou trois domestiques, celle-là, c'est très grave pour elle. Non, deux ou trois domestiques à la maison, si elle n'en a pas, c'est très grave pour elle. Elle n'a jamais touché. La Koweïtienne ne rentre jamais dans la cuisine, ni s'est secoué la cuisine, ni n'a jamais lavé un linge. Un linge. Non. Mais ce n'est pas ça, yani, le bonheur. Comme vous devez savoir, ce n'est pas ça, le bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il coupait et il rapiessait et il, yani, il faisait, comment on dit, traire de l'eau, du lait et khayrul hadi, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Alhamdulillah. Je voulais dire que normalement, mon dars, c'est demain ou après-demain. Maintenant, j'ai perdu les repères à cause des repères. J'ai perdu les repères à cause des repères de la sunna. Parce que je ne sais pas maintenant, c'est quand mon dars. Là, je ne sais plus, c'est quand mon dars. Est-ce que c'est demain ou est-ce que c'est après-demain? Si vous me voyez demain, c'est que mon dars, c'est demain. Si on ne se rencontre pas demain, inshallah ta'ala, et qu'il y a les repères, je ferai mon dars, inshallah ta'ala, lundi. Naam. Naam, j'ai dit jeudi, maintenant je ne peux plus jeudi. Naam. J'ai dit jeudi, maintenant je ne peux plus jeudi. Je voudrais samedi, lundi, et comme ça je voudrais. Et vendredi après les repères, à chaque fois on fait un concours, ou bien je vous réponds à vos questions, comme on a fait hier. Mais je voudrais, inshallah ta'ala, samedi, lundi, mercredi. Maintenant vous savez que j'ai samedi et mercredi, vous savez, samedi, mercredi. Reste à ce que je choisisse dimanche ou bien lundi. Vous voyez où c'est écrit Ibn Taymiyyah, Jiran Kadam, là, quand vous rentrez dans mon blog, vous allez trouver très bientôt mon programme. Dans mon blog, c'est écrit quoi? C'est écrit programme Pal Talk. Vous rentrerez là-bas, inshallah ta'ala, vous trouverez ce que je dois faire. Je vous dis, inshallah ta'ala, demain ou après-demain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته